Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Alors cette semaine, encore un épisode un petit peu particulier, le dernier de cette série, et c'est moi qui vais répondre aux questions de Stan, évidemment, que j'ai à nouveau invité sur le podcast pour faire l'animateur, mais aussi de nos spectateurs sur Twitch qui ont, puisqu'on a enregistré cet épisode en le streamant en live sur la chaîne Twitch de NoCode France. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch qui se veut être un petit peu le futur de la télé du NoCode, en francophone en tout cas pour l'instant. Et donc voilà, c'était un petit peu un épisode un petit peu méta, encore une fois. On passe du coq à l'âne assez allègrement, on évoque plein de choses différentes, un petit peu mon parcours, mais aussi le futur de Contournement, et on parle beaucoup de l'écosystème no-code, et de la concurrence saine ou moins saine, et de toutes ces choses-là. Voilà, donc un épisode riche, long, désolé, on a passé un très bon moment sur le canapé de Stan, et du coup je vais arrêter cette intro tout de suite et vous laisser avec cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus normal, où on va reprendre le fil un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore des surprises, car la saison 5 n'est pas encore terminée.
Bah bonjour tout le monde, c'est encore moi. Je suis désolé pour cette deuxième semaine consécutive d'énerver vos oreilles et de venir parler. C'est le 58e épisode du podcast de Contournement sur les technologies no-code. Et on est dans une situation un peu spéciale. Alors je vais essayer de vous la retranscrire, chers auditeurs et auditrices. On est actuellement chez moi, on est en live sur Twitch et on enregistre ce podcast où j'ai l'honneur et toujours le plaisir de recevoir une personne à qui je parle tous les jours. On avait pu en discuter, avec qui je parle vraiment tous les jours, et qui voilà, on a une grande discussion, et avec qui je fais énormément de projets, et qui, et je dirais même sans lui, je n'aurais pas ma place aujourd'hui dans le no-code, et j'aurais pas on va dire l'immensité de ce que je fais, l'immensité, j'aurais pas le plaisir de faire ce que je fais aujourd'hui, qui était une des premières personnes de l'univers à qui j'ai parlé, et qui m'a ouvert beaucoup de portes, avec son acolyte que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui je suis avec Alexis Kovalenko. Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être pour une deuxième fois invité de mon propre podcast, et ça me fait très plaisir. Et en plus, ça me fait plaisir aussi qu'il y ait des gens qui regardent un petit peu l'enregistrement et qu'on partage un petit peu les coulisses. Voilà. Avec un petit peu spécial, on va voir ce que ça donne. Mais voilà,
parfait.
C'est une belle discussion.
C'est un plaisir. Et donc voilà, donc je réexplique pour celles et ceux qui évidemment nous écoutent et qui écoutent ce podcast et qui ne voient pas la vue et qui ne sont pas peut-être maintenant sur Twitch ou ceux qui réécoutent. On est du coup en direct sur le Twitch de NoCode France et on a fait cet enregistrement en direct. Du coup, il y a deux lumières, il y a une caméra, il faut qu'on gère plein de trucs, mais ça va aller, on va faire une discussion, on va aller creuser un petit peu. Et ce qui est toujours intéressant, et on en avait discuté une fois, mais très rapidement, c'est que tu es une personne emblématique de la communauté NoCode France avec Erwan. Donc vous avez fondé le Slack, vous avez fait beaucoup ce travail d'aller évangéliser le NoCode. Aujourd'hui, quand on parle de NoCode, on parle beaucoup d'Erwan. On parle un peu moins de toi parce que je pense que ceci est un parti pris de faire Contournement et d'être Contournement. Évidemment, on reviendra sur la jeunesse de ce projet. On ne s'arrête pas à avoir le même témoignage peut-être qu'Erwan là-dessus. Mais j'aurais une première question. Et là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet sans forcément avoir d'accroche chronologique. Tu préfères pas être dans l'ombre, mais travailler et pas forcément te montrer devant ? C'est un choix perso ?
C'est carrément un choix perso, et pour être très honnête, en fait, je me suis beaucoup plus exposé que ce qui était prévu dans notre plan originel, parce que vraiment, à la base, effectivement, moi, je suis vraiment quelqu'un de l'ombre. D'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai commencé par plutôt un podcast que finalement tout ce qu'on fait maintenant sur Twitch, tu vois, et qu'on fait ensemble, hein, notamment. Mais effectivement, c'est vrai qu'à la base, ça me fait très bizarre, hein, je te le dis franchement, parce que Erwan étant vraiment rompu, on va dire, à l'exercice des médias et à présence, et il aime bien ça, et il est bon là-dedans, etc. Moi, je devais vraiment rester dans l'ombre. Vraiment, enfin, c'est de ma propre expression, hein, parce qu'en plus, Erwan m'a pas mal poussé, à vrai dire. Moi, j'étais bien content, en fait, de le laisser. En plus, assez vite, on a eu l'occasion quand même de faire un ou deux plateaux télé. Okay. Et donc, là, il n'y a même pas, de toute façon, même aujourd'hui, hein, il n'y a aucun débat, c'est Erwan qui y va, il est beaucoup plus à l'aise que moi. Mais du coup, j'ai quand même été invité plusieurs fois dans des podcasts, j'ai été invité plusieurs fois dans des lives, où c'était moi qu'on invitait directement. Et j'étais pas vraiment prêt pour ça. Erwan m'a fait aussi plein de retours et m'a pas mal aidé là-dessus. Mais
C'est une envie un jour de faire une télé, de présenter le no-code à la télé ou de faire des choses comme ça, ou tu... pas forcément, ou t'aimes bien ta position aujourd'hui? Je dis pas qu'il faut renverser Erwan, évidemment, hein, mais t'aimerais pouvoir t'exprimer ou tu te sens bien?
Non, pas dans des médias traditionnels. Très okay. Franchement, je veux dire, si on était invité et qu'Erwan ne pouvait pas y aller, bah, j'irais, tu vois, on ne va pas rater des occasions. Mais je ne pense pas que je serais très bon là-dedans. Et en plus, ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie. En fait, moi, ça me plaît, tu vois, tout ce qu'on fait ensemble, notamment sur Twitch ou bah, du coup sur notre chaîne YouTube aussi de contournement. Je me sens à l'aise maintenant de le faire parce que c'est des médias un peu alternatifs sur lesquels on a un contrôle. Et je suis pas très fan des médias, on va dire, un peu traditionnels, okay. Format d'interview, etc.
Mais ce que je dis est en partie fausse aussi, parce que c'est vrai que j'ai, enfin, de tête, Erwan est très peu apparu sur Twitch, et c'est vrai qu'en fait, sur Twitch, tu es très présent. Tu fais beaucoup de live le mardi, le jeudi ensemble, etc. Et c'est vrai que, en fait, ce que je dis n'est pas forcément vrai. C'est, je dirais plutôt médiatiquement et au grand public. Mais en tout cas, sur la communauté, sur les gens qui nous suivent sur Twitch, c'est ton visage qu'on connaît parce qu'on a peu vu Erwan dessus. Peut-être parce que c'est aussi d'autres langages et d'autres thématiques.
On me connaît plus, en fait, dans la communauté, effectivement. Puisqu'en plus, c'est moi, enfin, à travers une automatisation, évidemment, mais qui salue tous les gens qui s'inscrivent dans la
message,
communauté.
Je pensais que tu envoyais ce message à la main à chaque fois qu'il y avait une personne qui rejoignait la communauté.
C'est une automatisation Zapier depuis le premier jour. Et non, mais du coup, c'est vrai que je suis... Enfin, tu vois, moi, ça m'a surpris les premières fois où on m'a proposé d'intervenir dans un podcast ou quand Simon Roby, qui a eu Shubham, qui m'a invité après sur sa...
Sur un live.
Et tu vois, et ça m'a surpris et... On avait parlé avec Erwan et il m'a dit bah non vas-y tu vois enfin puis bon bah enfin je sais pas je me sentais plus à l'aise parce que il s'agissait de parler de la communauté que c'est plutôt moi qui l'ai lancé enfin okay. Donc c'était suivant le sujet en fait vraiment qu'on okay.
Mais... c'est bien parce que ce soir pour ce podcast du coup tu es auto-invité on va parler de toi et on va essayer de dresser un portrait du coup de Alex Ubenko et une question que j'aime beaucoup évidemment dans les grandes inspirations tu rêvais de quoi quand t'étais petit? Déjà, avant ça, revenons un peu. C'est quoi le contexte? Où est-ce que tu as grandi? Parce que c'est vrai qu'en fait, Erwan, c'était facile, parce qu'Erwan, il y a beaucoup d'interviews d'Erwan sur Internet. Enfin, beaucoup, il y en a. Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc, il y a une bonne source, je n'ai plus envisionné. Toi, il n'y en a pas, ou peu, où il y a des exergues, s'il y a des citations, mais il n'y a pas de portrait. Et du coup, c'était où est-ce que tu as grandi? Parce que même moi, c'est les choses que je vais découvrir en même temps que vous. Hein. J'ai quelques bribes, mais je ne sais pas...
Mais tu vois, ça me va aussi bien, à vrai dire. Okay. Que... Non, mais ça ne me dérange pas d'en parler là, parce que c'est notre podcast, tu vois. Ouais. Enfin, c'est mon podcast, tu vois. Mais, enfin, pour l'anecdote, hein, la première fois en fait où j'ai un peu raconté ma vie, c'était dans le podcast de Théo Maréchal. Enfin, c'est la première fois que je me suis livré autant de manière publique. Alors, c'est pas un podcast non plus extrêmement écouté. Enfin, je sais pas. J'espère pour lui d'ailleurs que très écouté parce que j'aime bien ce qu'il fait. Mais bon, non, mais je veux dire oui. Relativement. Et ça m'a fait très bizarre, tu vois. Enfin, okay. Je sais même pas si je l'ai partagé quand même, mais bon, je l'ai pas non plus spécialement mis en avant. Mais c'est, enfin, personnellement, moi, ça me va bien effectivement qu'il n'y ait pas de portrait, etc. Après, pour répondre à ta question quand même, pas de tourner autour du pot pendant 10 ans. Moi, j'ai grandi exactement là où on est en ce moment. Je suis né à l'hôpital Saint-Antoine, qui est à 50 mètres.
50 mètres de là.
J'habite en face. Mes parents n'habitent pas loin. Voilà, moi, j'ai vraiment grandi à Paris et. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que dès qu'on dit qu'on est on est de Paris et qu'on est fier d'être Paris, les gens associent ça au foot alors que moi j'en ai rien à foutre, vraiment le foot, j'en ai rien à foutre. J'ai un tatouage de Paris et tu sais, les gens ils me disent ah ouais, mais t'es un supporter du PSG. Je dis non, franchement, j'en ai rien à foutre. Et donc, mais par contre, c'est vrai que ça a forgé un peu de mon identité culturelle, quoi. D'être okay. Parisien, quoi. Okay. Je me sens plus parisien que français.
Et du coup, t'as fait tes études à Paris?
Je fais mes études à Paris,
à Jussieu.
Ouais.
Jussieu, c'est ça. Et alors, si je ne dis pas le bêtise, que j'ai quand même préparé, évidemment, ce podcast, Matinfo ou informatique à Jussieu.
J'ai fait Matin, ouais.
C'est ça?
C'est ça. Ah. Je fais un Doug Mias, pour les anciens qui écouteront.
Doug en 2 ans, on est d'accord.
Ouais, enfin, sauf que moi, je l'ai fait en 3 parce que j'ai bien aimé la première année. Donc
c'est important.
Fois, mais...
C'est important, c'est pour bien consolider les bases.
Ouais. Non, mais après,
n'hésitez pas à faire 2 fois la première année, c'est bien. Ça consolide vos bases. Et suite à ça, du coup, suite à ton Doug, tu pars directement travailler? Tu continues un peu les études?
Non, j'ai fait un master en télécom et réseau.
Okay.
Moi, en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la sécurité.
Okay.
Et je faisais un peu de programmation à côté, c'était les débuts du web, hein. J'ai fini mes études en 2005.
D'accord.
Et donc, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la sécurité, les réseaux, c'était comprendre en fait ce qui se passait dans les tuyaux, parce que moi, bon, je faisais des sites web depuis que j'avais 15 ans.
Okay, donc toujours une passion quand même pour le digital.
Ouais, une passion pour la technique, tu vois.
Parents là-dedans ou pas du tout?
Pas du tout, non, mes okay. parents, ils sont profs.
D'accord, ok. Ouais, donc pas du tout de milieu...
Rien à voir, mais j'ai eu la chance d'avoir un ordi quand j'étais très jeune.
Ok, tu te souviens de la première chose que t'as... Enfin, tu te souviens de ce que c'était comme modèle?
C'était un Amstrad CPC 6128.
Très bien.
Parce que là, comme ça, les gens vont bien savoir que je suis un vrai nerd.
Moi, mon premier ordi, c'était les gros Mac. C'est bleu. Les iMac très gros comme ça. Je me souviens de ça. On avait ça dans une. Ça pesait une blinde et il était gros bleu avec une grosse poignée par-dessus.
Ouais. Mais c'était déjà
poussé.
Ouais, parce que c'était déjà l'écran et l'ordi au même endroit.
Ouais, enfin, totalement. Ouais.
C'était pas un écran plat, mais.
Non, c'était un gros cube, mais courbé.
Non, moi, c'était avec des disquettes et tout. Ouais.
Ok.
Mais bon, très honnêtement, à l'époque, je l'utilisais que pour jouer.
Ok.
Je l'ai eu quand j'avais 6-7 ans. Et après, par contre, j'ai eu un PC. Mes parents ont un PC très jeune. Enfin, en gros, j'ai commencé... Parce qu'en fait, pour moi, le truc qui est vraiment fondateur, c'est quand j'ai eu accès à Internet, en réalité.
Okay.
Parce que jusque-là, j'ai fait un peu de programmation en cours de techno, tu vois, au lycée et tout, enfin au collège. Mais c'est quand j'ai eu accès à Internet, surtout, que ma vie, elle a changé et que je suis vraiment devenu un nerd.
Et t'as eu une passion directement... Enfin, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Du coup, c'était déjà cybersécurité ou pas tellement?
Ouais, bah oui, parce que comme tous les jeunes, j'étais un peu fasciné par le piratage. Enfin, okay. Tu vois, je me faisais un peu des films... Moi, dans ma tête, tu vois, c'était un peu Wargames et les films comme ça, quoi. Enfin, mais oui, non, après, en plus, enfin, j'ai fait quelques conneries, quoi. Mais j'ai pas... En fait, si j'avais... En fait, j'ai commencé à faire des sites, mais pas vraiment apprendre à programmer, quoi. Ça m'a pris du temps à vraiment devenir développeur.
OK.
D'ailleurs, je faisais des sites au début en no-code avec un outil qui s'appelait FrontPage, qui était un des outils Microsoft. Après, j'ai découvert Dreamweaver, etc. Mais quand j'ai découvert Dreamweaver, je connaissais déjà le HTML. Je connaissais que le HTML parce qu'en fait, le CSS est arrivé bien plus tard. Okay. J'ai commencé quand il n'y avait pas encore... Mais enfin, bref, c'était...
Mais du coup, début de vie, vraiment, enfin, début de vie, on va dire, professionnelle, vraiment côté cybersécurité.
Donc, ouais, c'était ça qui me passionnait. Ouais. Après, j'ai commencé à travailler là-dedans. En fait, je me suis rendu compte que c'était vachement moins cool.
OK.
Parce que, en fait...
T'es en tant que salarié dans une entreprise?
Ouais, en fait, j'ai fait ma dernière année en alternance.
Okay.
Et j'ai été recruté dans la boîte où j'avais fait mon alternance.
Okay.
Mais en fait, j'ai pas été recruté tout de suite. En fait, c'était une petite boîte, c'était une start-up avant que ça s'appelle vraiment
une start-up.
Ouais. Et en fait, ils avaient pas les moyens de me recruter. Et donc, j'ai attendu pendant 6 mois. Mais je crois que ça, je l'ai. Parce que j'allais dire, je le dis à personne, mais en fait, je crois que ça, je l'ai raconté dans le podcast de Théo. Moi ça c'est un des trucs qui me fait flipper dans la vie, c'est de me répéter, tu vois, de tout le temps raconter les mêmes trucs et tout.
Bah, c'est compliqué, mais je pense que ça, il y a de la marge encore. Je vais tenter de creuser, on va faire un petit portrait chinois là,
avec l'âge. Je sais pas, c'est une de mes hantises un peu, mais bref, écoutez l'épisode de Théo, j'ai raconté un peu plus en détail.
Mettez sur pause, allez écouter celui de Théo et revenez, on fera des
ouais, voilà. Non, mais c'est parce que c'est pas si intéressant que ça, parce que, mais avec lui on avait parlé plus du côté entrepreneur.
Ok, donc on parlera pas de l'entrepreneur.
Et de est-ce que, enfin voilà, non, mais pour résumer, moi je me suis jamais vraiment senti entrepreneur, mais en réalité, pendant ces 6 mois où j'ai un peu fait ma vie après mon année en alternance, enfin ma dernière année en alternance, j'ai essayé de faire un premier projet qui était c'était pas un magazine, c'était une plateforme en fait de blog. Allez. Pour les voyages en fait. C'était un truc, il y avait déjà TripAdvisor, en fait c'était le début du web 2.0.
Donc des nouveaux sites avec l'interface.
Et c'était avec des communautés, du contenu généré par les utilisateurs, etc. Et en fait, j'étais fasciné par ce truc-là. C'était le début un peu des gens cool. C'était 2006-2007. Les entrepreneurs un peu du web 2.0 étaient un peu cool. Et j'ai eu cette idée. Je me suis dit, OK, TripAdvisor, ça existait déjà. Il y avait déjà ces trucs-là. Mais c'était tout le temps des reviews d'adresses. Il y avait Yelp, que j'aimais bien, ouais. Qui était déjà une amélioration de TripAdvisor, qui était un peu...
Qui maintenant est une dégradation de TripAdvisor. TripAdvisor,
c'est carrément vieux jeu, mais ouais. C'est encore hyper utilisé. Moi, mon père va tout le temps sur TripAdvisor, tu vois.
Oui, mais TripAdvisor, non, Yelp aujourd'hui est quand même...
Ah, Yelp, ouais. Yelp ça n'a jamais bien. Décollé en France, ouais. En fait. Mais aux États-Unis c'est encore très utilisé, ouais.
Mais moi, je pensais que c'était vraiment un truc interne à Google, mais en fait, pas du tout. Parce que souvent, quand tu vas sur Google et que tu tapes un truc, t'as Yelp souvent qui sort en premier.
En fait, c'est un partenariat, mais je sais pas, peut-être ils l'ont racheté d'ailleurs tôt ou tard, mais à l'époque, c'était indépendant, c'était une belle start-up. Mais je me disais, tout ça tourne toujours autour des adresses. Et en fait, je me disais, quand tu voyages, tu as envie de raconter aussi ton voyage. Et tout ça, c'était avant vraiment la grosse mode des blogs, et c'était pas si facile que ça de faire un blog.
Il
n'y
avait pas les influenceurs voyage ou les influenceuses voyage Instagram.
Non, parce que ça, c'est après, je l'ai connu après dans la deuxième itération sur ce projet. Mais au début, c'était une plateforme, mais bon, je veux dire, on n'y connaissait rien. On a lancé ça avec mon meilleur pote et un bon pote de fac. Et puis, bon, ça n'a pas vraiment marché. Mais c'est resté comme ça, comme un projet étudiant.
Mais c'est plutôt bien parce que du coup, tu as planté, ce qu'on me dit toujours, c'est la première boîte, tu la plantes toujours, tu la plantais très jeune, donc c'est plutôt bien.
Ouais, mais en plus, on ne s'est pas vraiment planté parce que déjà, on n'avait pas vraiment fait de boîte.
Okay.
On n'avait pas de modèle économique, tu vois. Enfin, on rêvait un peu,
comme ça existe maintenant toujours, hein, tu vois, de se dire, OK, on va avoir du monde, on va avoir beaucoup de traction, et après, on verra ce qu'on fait de l'argent, tu vois. Okay. Dans le voyage, c'est assez facile de monétiser, en fait. Ouais. Tu vois, t'as toujours
des partenariats
qui sont assez évidents, quoi. Mais donc, mais c'est juste, on n'avait pas vraiment le mindset. Je pense qu'on avait un peu le... On avait déjà un... J'ai pas mal appris à programmer, en fait, grâce à ce projet. Je pense que c'était vraiment sa vertu principale. Mais, Enfin, tu sais, quand j'y repense à posteriori, on était beaucoup trop jeunes, on n'avait pas du tout le...
C'est intéressant, c'est-à-dire que si ça avait marché, on aurait pu te redécouvrir ici en tant qu'influenceur voyage ou à Bali, faire une interview en live.
Bah alors ça, c'est après, tu vois. Attends, je vais te raconter, tu vois, ce qui s'est passé. Parce que donc ça n'a pas marché. J'ai commencé à bosser dans cette boîte, dans la sécurité.
Okay.
Je me suis rendu compte que la sécurité, c'était pas du tout aussi cool que ce que ça en avait l'air quand moi, je bidouillais sur mon ordi.
C'était quoi le quotidien, du coup?
J'étais programmeur, quoi, en gros.
Okay.
Parce que c'était une boîte qui faisait un contrôleur de réseau Wi-Fi.
D'accord.
Tu vois, par exemple, tu sais, quand tu vas dans des hôtels, tu as un portail captif où tu dois mettre ton numéro de chambre, etc. Bah oui, ils fournissaient ça. Donc moi, je travaillais sur... J'ai fait plein de choses différentes, mais surtout programmer le produit, quoi.
Mais t'as toujours aimé les trucs comme ça. Enfin, les trucs un peu pas hard, mais t'as toujours aimé développer, écrire du code, etc. Erwan nous le disait un petit peu.
Ouais.
T'as toujours aimé...
Moi, j'aime bien la tech. Ouais. Mais en fait, j'aime bien la tech, mais après, j'ai voulu la mettre au service du web, plutôt.
Okay.
Que vraiment de ce qui passe dans les tuyaux, de la sécurité, de tous ces trucs.
Oui, tout le côté, on va dire, plutôt réseau. Toi, ce qui t'intéressait vraiment, c'est le côté web et...
C'est devenu après, parce qu'en fait, après cette boîte, je suis parti à Londres pendant 2 ans.
Ok.
Et...
ce qui explique le bon anglais aussi.
Ce qui, pas autant que ça devrait, parce que j'ai travaillé à l'ambassade de France à Londres. Ah. Donc, malheureusement, c'est une de mes déceptions, tu vois. J'ai pas réussi à pécho un bon accent anglais, tu vois.
Tu faisais quoi à l'ambassade de France à Londres? En informatique aussi?
J'étais responsable informatique de la mission économique.
Ok.
Donc, en gros, ça voulait dire que mission économique, c'est 50 personnes environ. À Londres, c'est une des plus grosses en Europe. C'est le département économique de l'ambassade, en gros.
D'accord.
Et donc, je m'occupais de tout ce qui avait un fil, de tout ce qui était électrique, surtout des ordis, mais bon, un peu tout, les imprimantes, etc. Donc, c'était vraiment du support en réalité. C'était pas, malgré le titre cool.
C'était les dépannages de « je comprends pas, ça marche pas ».
Exactement, mais j'ai beaucoup appris là-dessus. Humainement, surtout à l'époque, j'étais vraiment encore beaucoup plus timide que maintenant et beaucoup plus réservé. Ça m'a forcé à sortir un peu de... j'ai un peu appris la vie, mais...
Alors, parler aux gens.
Ouais, franchement, surtout t'es des diplomates et tout. C'était pas passionnant, c'était beaucoup du support en réalité. Mais j'avais une belle carte de visite, c'était hyper cool. C'était un des trucs que j'ai préféré.
Ambassade.
Ouais, avec la Marianne dessus, c'était hyper cool.
C'était sympa la vie à Londres à l'époque? Ouais, c'était cool.
Et la vie à Londres, c'était cool parce que surtout moi j'étais en VIA, donc c'est des bonnes conditions.
Ok. Donc, VIA,
c'est comme les VIE, mais dans une administration. Je sais pas si tu connais VIE.
Pas du tout. Je pense que
tu devrais regarder, t'as l'âge encore.
C'est quoi les VIE?
C'est jusqu'à 28 ans.
J'ai plus l'âge du coup.
Je dis à tout le monde vraiment de regarder ça parce que je pense que tout le monde devrait partir à l'étranger tôt ou tard.
Okay.
Et je pense qu'il y a un très bon moyen de le faire, c'est de faire ça. En gros, c'est pas un stage parce que t'as un vrai job pour une boîte française à l'étranger ou une administration. T'es correctement payé, tu payes pas d'impôts, t'as une super mutuelle. Oh. Et suivant la boîte ou le truc, tu as des avantages. Tu peux avoir ton loyer payé ou des trucs comme ça. D'ailleurs, j'en parlais avec Lucien, qui écoutera peut-être cet épisode. Il a fait un VIE à Bangkok et il a eu des conditions assez exceptionnelles de ce qu'il m'a raconté quelques jours.
J'ai regardé pour des VIE.
C'est un super moyen de partir à l'étranger. Et moi, je trouve que c'est important de partir à l'étranger.
Et c'est des choses qui sont organisées par l'État ou c'est
organisé par un organisme paragouvernemental qui s'appelle UBI France.
Okay.
Peut-être une société maintenant, je ne sais plus. C'est une agence de l'État
qui
s'occupe de placer les gens, de tout le process de recrutement. Même pour une entreprise d'ailleurs, si des gens écoutent et qu'ils ont une entreprise et qu'ils veulent s'installer à l'étranger, ça c'est le plus gros des VIE, c'est des commerciaux. En gros, d'accord. Tu veux faire une filiale à Londres, t'envoies un VIE à Londres.
Et, ils connaissent
et puis
plein de monde
il va aller faire de la prospection, etc.
Ok, intéressant, je ne connaissais pas du tout. Ok, j'irai explorer ça.
C'est très, très particulier. Moi, c'était vraiment.
If there is any no-code company listening to the podcast, please take my VIE, please.
Non, mais en plus, le process est hyper fluide parce que tu as une seule plateforme où mettre ton CV, tu as tous les,
oui, en plus,
les offres qui sont là, etc.
Ah, intéressant. Ok.
Donc, franchement, c'est cool. Moi, je recommande. Moi, c'était une super expérience. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des moins bonnes expériences, mais en plus, le salaire est adapté suivant le pays où tu vas. D'accord. Plus tu vas loin, plus tu es bien payé. Plus tu vas dans un pays dangereux, plus tu es bien payé.
C'est les salaires c'est les salaires français ou c'est les salaires du...
Et tu es toujours payé en euros.
Ouais.
Ok. Tu es toujours payé en euros. Donc en plus, suivant, par exemple, moi, quand j'étais à Londres, le taux de change était intéressant.
Ouais, moi maintenant.
Donc en plus, j'avais une petite plus-value grâce à ça.
Ok.
Enfin, après, ça peut être très variable, mais de toute façon, c'est aussi indexé là-dessus. Donc, franchement, tu es toujours bien. Après, c'est un contrat de 2 ans maximum. Je fais la pub du... Mais en même temps, ça ne me dérange pas parce que quand j'étais là-bas, en fait, la mission économique, c'est ça qui gère les VIE. Donc, en fait, moi, je bossais
À développer aussi
les VIE. C'était un peu méta, donc c'est pour ça que je connais bien le sujet. Mais vraiment, ouais, je recommande à tout le monde.
Bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Et donc, du coup, 2 ans à Londres et ensuite, tu reviens à Paris.
Et ensuite, et c'est là où j'ai décidé de vraiment revenir dans le web.
Ok.
Et on a décidé de relancer ce projet autour du voyage et d'en faire un magazine, en fait. D'avoir toujours une partie communautaire, mais aussi d'en faire un magazine en ligne. Parce qu'à chaque fois, je dis magazine, mais à chaque fois, je voulais dire en ligne.
Okay.
Et pas papier, ouais, non.
Ce que j'allais dire, on était en quelle année ? Enfin, ça aurait pu marcher à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait aussi l'essor
de... En 2010.
Ouais, il y avait toujours l'essor de magazine papier encore.
Ouais, mais franchement,
ça a commencé à perdre un peu de...
Donc, ouais, non, pourquoi pas, hein, mais franchement...
Oui, c'est beaucoup de... Ouais.
On n'avait pas de moyens,
rien. Il n'y aurait pas eu le web, surtout.
Ouais, et puis voilà, moi, ce qui m'intéressait quand même, c'était de faire du code, de développer le site. On l'a fait avec WordPress à l'époque.
Okay. WordPress, no code ou pas no code, on vous laissera juger. Grand débat, ouais.
Non, mais on avait fait...
Je l'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn, d'ailleurs, quelqu'un qui vantait les mérites de WordPress.
Ah ouais, mais moi j'adore WordPress. Hein. En fait, le problème, c'est que dans la communauté, on n'en parle plus. Et c'est vrai que c'est un outil qui, comme a dit Francis la semaine dernière, hein, c'est vrai que tu peux faire des sites sans écrire une ligne de code en utilisant WordPress.
Ouais, mais c'est tellement d'entretien.
En fait, moi, je trouve que c'est les gens confondent. Et tu vois, quand il a dit ça, bon, ça faisait partie des nombreuses choses que
tu as pu rebondir. Quand on dit la semaine dernière, c'est parce que jeudi dernier, du coup, on était au mois de juin, on a fait une émission No Code Game un jeudi où on parlait du coup avec Francis et avec Valentin de la White Code School d'une formation où il y avait du WordPress sur le No Code. Je recontextualise pour les gens.
En fait, pour moi, WordPress, les gens se trompent parce que WordPress, c'est pas un outil pour faire des sites web. Okay. En fait, WordPress, c'est un outil pour publier du contenu.
Et
pour ça, c'est un truc extraordinaire. Et les gens qui pensent que pour publier du contenu, ils vont passer sur Webflow, ils se trompent à mon avis lourdement.
Okay.
Certes, Webflow a une base de données qui s'appelle le CMS, mais c'est pas fait pour, parce que avant de pouvoir publier ton contenu sur ton site Webflow, tu vas devoir faire tout le site.
Oui. Donc tu vas prendre un temps.
Ça n'a aucun intérêt. Alors que tu mets un WordPress, tu as tout de suite, bon, il faut certes l'installer, mais tu peux publier du contenu. Et pour publier du contenu, il n'y a pas mieux parce que c'est bien référencé, tu as un back-office où tu fais juste ton contenu.
Et c'est simple et ça tourne.
Et voilà, moi je préfère Ghost, je veux dire honnêtement, en tant qu'outil pour publier du contenu.
Mais c'est cher, enfin c'est cher, c'est un
petit coup. Mais c'est hyper galère à installer, ouais. Tu vois, je veux dire.
Mais on nous demandait, genre, moi j'avais beaucoup de questions et c'est intéressant sur un outil no code pour du blog. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas techniquement spécialement pour un blog. Et après, tu peux utiliser Webflow, etc. Mais il n'y a pas un outil qui se dit Ghost. Mais Ghost, ça peut coûter un petit peu d'argent quand même. Mais ça demande quand même parfois un petit peu de. Enfin, toi, c'était très fermé en termes de barrières. Et c'est vrai que moi, je crois aujourd'hui, et je pense qu'il y a peut-être un créneau à avoir justement un outil qui sera pas une réussite colossale, mais toi, qui fait vraiment pour des blogs, pour du blogging ou des trucs comme ça. Quoi.
Bah, j'en ai vu passer un il n'y a pas très longtemps. Ouais.
Okay.
Et après, en fait, à mon avis, je vois ce que tu veux dire et je pense que tu as raison. J'en ai vu passer un il n'y a pas très longtemps, ce truc de micro-blog, je sais
pas. Il y a SteadyHQ qui fait ça avec un système d'abonnement et du coup tu peux publier, mais c'est vraiment sous forme de newsletter. Parce qu'après, tu as Substack, d'accord, etc.
Sur Substack,
c'est
tu vois, ça te fait. Ouais, mais tu sais, tu as une page aussi qui correspond à chaque news, tu vois. Il y a des gens qui publient du contenu sur Substack.
Ouais, mais pour un blog, c'est compliqué. Il y a plein de gens, et d'ailleurs, SteadyHQ a fait un grand article sur Substack, ils disent que c'est très mal référencé, qu'il y a plein de trucs pas ouf.
Ça, c'est vrai, le référencement est un vrai enjeu. Mais moi, tu vois, moi, je crois. T'as raison sur le fait qu'il y a un trou dans la raquette un peu sur ce sujet-là.
Après, est-ce qu'il y a vraiment un business ? Pas forcément.
Moi, je pense que c'est Doric, c'est Softer, c'est tous ces outils-là qui doivent le faire, ce truc-là, tu vois. Et là, t'as le meilleur de tous les deux mondes, tu vois. C'est-à-dire que tu peux aller vite pour faire ton site, tu peux faire un vrai site flexible, ce que tu ne peux pas faire avec WordPress, à moins, évidemment, d'utiliser Elementor, Divi et compagnie. Et franchement, avec ces outils-là, on est très loin de l'ergonomie, je trouve, d'un Doric. Pour moi, Doric, c'est Elementor en bien, en facile, en performant.
Et d'ailleurs, sur mercredi, on a resté à l'actu de Doric parce que ça sortira peut-être bientôt cette fonctionnalité de mini CMS, de petit blog. Voilà.
Ah oui, c'est vrai que ça arrive.
Peut-être, ouais. Je
sais
pas, j'ai pas.
Non, mais tu vois, voilà. Moi, je pense que là, on a un truc, tu vois, c'est-à-dire qu'on pourra publier du contenu et en même temps se faire une page de manière flexible. C'est pour ça que WordPress n'est pas un outil no-code dont on parle, parce qu'il n'est pas flexible, tu vois. Pour moi, hein, dans ma définition, moi, ce que je veux, c'est faire exactement ce que tu veux, tu vois.
Et il y a un truc aussi, moi je trouve qu'il y a un truc sur l'entretien, on reviendra à toi après, hein, ne t'inquiète pas.
Non, mais moi ça me va aussi bien de parler.
je trouve qu'il y a un truc aussi qu'on a que d'WordPress, tu vois. Là je me suis reconnecté sur un vieux site un perso sur WordPress et j'avais 45 notifications de mise à jour. Et toi, il y a ça aussi, je pense, qui rentre en compte. Toi, les plugins et les choses comme ça. Aujourd'hui, quand j'utilise un outil no code, quand je publie un site sur Doric, je le publie et je sais que j'aurai jamais à y retourner. Sauf si je dois évidemment modifier du contenu. Mais je sais que mon site, il va tenir card, etc. J'ai des sites que j'ai fait, le site de mon livre blanc est sur card et j'aurai jamais à toucher. WordPress, il faut y retourner minimum une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines pour mettre à jour WordPress, mettre à jour les plugins, les modifications. Et après, évidemment, c'est cool d'avoir des plugins parce que sur card, sur Doric, sur Webflow, t'as peut-être pas autant de plugins et de fonctionnalités. Mais t'as ce côté d'entretien, en fait.
Bien sûr. Moi, je vais te donner une anecdote même. C'est que donc c'est extrêmement important pour la sécurité de mettre à jour dès que possible ces plugins dans WordPress. Toutes les semaines, c'est pas assez en fait.
C'est vrai.
Nous, tu vois, quand on donc peut-être on y viendra plus tard, mais donc j'ai géré une agence web pendant presque 4 ans. Ouais. Donc on avait un process tous les vendredis matin, on avait une personne de l'équipe qui faisait les mises à jour de tous nos sites WordPress que on faisait pour des clients.
Okay.
On l'avait plus ou moins automatisé, etc. Mais bon, il fallait quand même aller vérifier parce que des fois, tu as des mises à jour qui se passent pas bien, qui cassent ton site. Et ben, d'une semaine à l'autre, une fois, on a eu un site qui s'est fait hacker. D'ailleurs, c'est le site de... Je peux le dire parce que ça, c'est pas grave. De la mission... comment ça s'appelle ? Le Pôle emploi pour les jeunes, là. La mission locale, pardon. Putain, okay. Je m'échappe. Ça se voit que je me suis un
peu
éloigné.
Si un jour vous regardez, on est désolé pour cet événement. Enfin, Alexis est désolé du coup, parce que moi, j'ai rien fait, mais...
La mission locale de
on
Paris.
On tous les deux.
On leur avait fait un site avec WordPress. On n'avait pas mis beaucoup de plugins, hein, pourtant. Ouais. Le thème, on l'avait fait... est-ce qu'on l'avait fait sur mesure ? Je ne me souviens plus. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Et bah, le site, il s'est fait pirater comme ça entre deux mises à jour, tu vois. Alors que pourtant, tu vois, on est quand même des professionnels relativement. Et donc ça, c'est un des gros problèmes de WordPress également. C'est qu'il faut l'héberger soi-même. Même si tu passes par une offre d'hébergement, tu es quand même responsable des mises à jour. Mmh. Et ça, c'est un énorme truc. Je pense que les gens sous-estiment, tu vois, parce que les gens, ils ont tout le temps à nous questionner, tu vois, par exemple, sur la sécurité des outils no-code, etc. En fait, ils ne se rendent pas compte que le fait que ça soit centralisé est un avantage incroyable pour la sécurisation, quoi.
Et aujourd'hui, on n'a encore pas, enfin jamais eu, en tout cas de ma connaissance, de hack de site qui était sur Webflow, de hack de site qui était sur Doric, etc. Il doit peut-être y en avoir, mais en tout cas, on n'a pas eu vent, tu vois, ou deux personnes sur Bubble qui ont eu un hack de leur système.
Non, après, c'est...
Ils n'en parlent pas non plus parce qu'ils ne le savent pas forcément.
Non, mais en tout cas, pareil, hein, même Airtable, etc., ma connaissance, il n'y a jamais eu de fuite de données. Et on pense que ça n'arrivera jamais. S'il y avait des choses, ça pourrait peut-être être des choses où l'utilisateur a mal configuré.
Ses accès,
etc. Mais tu vois, par exemple, Doric, la manière dont c'est fait, ou WeWeb...
Mais il n'y a pas de données pour l'instant. Donc
comme c'est déjà c'est des choses qui sont dynamiques, qui sont générées, alors il y a toujours un moyen de hacker quelque chose. Mais c'est quand même très résilient, quoi. C'est-à-dire que ta page, elle est générée, elle est sur un conteneur quelque part, qui est quasiment inaccessible, tu vois, c'est un peu des forteresses, parce que c'est très, très conteneurisé. Enfin, tout est très... moi, je crois beaucoup à tout ça, quoi. Et en plus, c'est hyper performant parce que franchement, je le dis souvent quand j'ai l'occasion dans des lives ou quoi, mais pour tenir la charge avec un site WordPress, avec un hébergeur traditionnel, avec un OVH ou un truc comme ça, c'est hyper compliqué. Et nous,
ça coûte de l'argent. Moi,
ça coûte cher, mais je te jure, au-delà de la question de l'argent, c'est très compliqué techniquement. Ouais. Tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, tu vois, AWS et toutes ces choses-là marchent très bien, c'est parce que toutes ces solutions, elles sont élastiques et donc ça gère pour toi, en fait, la montée en charge. Alors qu'avant, quand tu avais des serveurs, même si tu en avais 2, 3, 4, 10, même si tu avais les moyens de payer 10 serveurs, bah, il faut arriver à configurer 10 serveurs qui vont fonctionner en parallèle, qui vont être bien synchronisés, etc. C'est un vrai truc, tu vois. Mais ça, effectivement, c'est des choses, tout ça, qui m'ont passionné techniquement, d'avoir à gérer tout ça. Et en même temps, ça me fait d'autant plus apprécier vraiment les outils no-code.
Quotidien.
Ouais. Et la technicité de tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vachement aimé les discussions que j'ai eues avec les gens de WeWeb, par exemple, qui sont vraiment une belle équipe technique, qui sont très portés sur ces sujets-là, qui résolvent ces sujets-là au quotidien, du coup, pour leurs clients. Avec un outil, enfin, pour que ça soit générique, pour que ça marche pour tout le monde. Je trouve que c'est un sacré challenge, tu vois, j'aimerais pas être forcément à leur place. Mais ouais, ça, je trouve ça vraiment passionnant. Hein, comme,
moi, moi, j'ai une question que je vais garder pour la fin, mais j'ai envie de la poser maintenant. Est-ce qu'un jour, tu développeras un outil no-code ? Est-ce que tu as une envie, en tout cas, de bosser sur un outil no-code, ou pas du tout ?
Franchement, il faut jamais dire jamais, mais okay. Je pense vraiment pas.
Il y a peu de chance.
Ouais, je pense pas, parce qu'en plus, en fait, je pourrais travailler... Si je décidais un jour de revenir dans la technique pure et dure, je pourrais travailler dans une équipe qui ferait un produit, pourquoi pas.
Okay.
Tu vois, être CTO d'un...
Tu es débauchable aujourd'hui pour aller rejoindre une entreprise de no-code ?
Non, pas aujourd'hui, parce que je suis trop passionné par ce qu'on fait avec Contournement et avec cette communauté et l'émergence de ce mouvement. Mais ouais, un jour, je me lasse assez vite de tout. C'est un gros problème.
Combien de temps, du coup, avant de te lasser du no-code ? Mais est-ce que tu te lasses parce que c'est les mêmes choses ? Enfin, c'est ça aussi une question qui est intéressante. Pardon, vas-y, finis.
Je sais pas, parce que dans toute ma carrière, j'ai fait un des cycles d'environ 2 ans.
Ok. Ça fait plus de 2 ans.
Et là, ça fait 2 ans pile, hier, j'ai eu la notification Twitter que ça faisait 2 ans qu'on était inscrit sur Twitter avec Contournement.
Mais. Ouais, vas-y.
Mais non, franchement, là pour l'instant, en fait, ça arrive pas très souvent dans une carrière de se retrouver au bon endroit au bon moment, ce qui est, je pense, vraiment notre cas avec Contournement, avec cet écosystème qui est en train de naître, et surtout aussi par rapport aux compétences qu'on a, à cette association qu'on a avec Arwan, où on se complète vraiment très bien sur la plupart des aspects. Donc voilà, tu vois, parce que, par exemple, si j'en reviens à ce que j'ai fait après Londres, donc on a essayé de lancer ce magazine en ligne sur le voyage. Ouais. C'était le bon moment.
Okay.
C'était le début vraiment de tous ces influenceurs de voyage, etc. Enfin, on était vraiment dans ce move-là. Mais on n'avait pas l'expérience. Tu vois, aujourd'hui, si je refaisais ce projet, je pense que je le referais, que ça marcherait mieux, quoi.
Okay. Parce qu'à l'époque, ça a duré combien de temps, le projet ?
Ça a duré à peu près 2 ans. Je te dis, moi, je suis sur des cycles à peu près de 2 ans. Donc, ça a duré 2 ans jusqu'à ce qu'on abandonne parce que ça marchait pas assez. En fait, on avait, c'est un peu comme on dit dans le rap ou dans les trucs artistiques, un peu un succès d'estime, tu vois.
Okay, ouais.
C'est-à-dire qu'on était hyper connus dans la communauté comme les gens qui faisaient des trucs hyper créatifs et tout. Mais le problème, c'est que on n'avait pas du tout une grosse audience.
Vous avez pu vous payer ou même pas, ou c'était vraiment un projet de...
Non, on ne s'est jamais payé parce que le peu d'argent qu'on gagnait, on l'a réinvesti. Okay. En même temps, on a gagné un petit peu d'argent. Mais...
Beaucoup voyagé ?
Par contre, on a beaucoup voyagé. Ouais,
ah, donc bon truc.
On a beaucoup voyagé. Non, mais après, tu vois, on ne s'est pas payé. Surtout, on a eu beaucoup de gens bénévoles qui ont...
Okay.
On a payé quelques personnes, on a payé quelques piges. Et nous, l'argent...
Donc, t'as touché un peu avec le journalisme et les piges à l'époque. Grand mot, la pige.
Ouais.
La pige, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui nous écoutent, c'est quand souvent des journalistes ou freelance, on travaille soit... C'est un peu le freelancing du journaliste, on appelle ça une pige. Et souvent, c'est des feuillets ou c'est des textes ou des choses qu'on envoie.
Et je pense qu'on payait, on payait trop bien par rapport à... Ouais, parce qu'on n'avait pas du tout de notion, on n'avait pas bien évalué économiquement.
Tu te souviens encore de combien vous payez la pige ? C'était quoi, c'était un feu ?
En fait, je me souviens surtout d'une personne. Tous les lundis, en fait, on publiait un article avec une carte dedans. Okay. C'était une de nos rubriques qui marchait le mieux.
D'accord.
Monday Maps. C'était en anglais, tout ça.
Ah, tout ça en anglais ?
Une des erreurs stratégiques qu'on a fait.
Ok.
On serait beaucoup plus. Ça aurait beaucoup mieux marché si on avait fait en français. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tout ce qu'on fait à Contournement, c'est en français.
Ça, on en parlera.
C'était tout en anglais. Ça s'appelait Monday Maps. Et la personne. On lui donnait $80, je crois, par article.
C'était combien d'articles ?
Non, attends, est-ce que je dis une connerie ? Si, c'est ça. Et un article, franchement, il n'y avait pas beaucoup de texte, quoi. Je pourrais pas te dire, je sais pas, 300 mots peut-être. Je sais pas, non.
Ah oui. Ah, c'est dans les tarifs.
Ouais.
C'était 70€, c'est dans les tarifs. Enfin, c'était pas délirant.
Bon,
mais à l'époque, c'était délirant parce que le
coût. Bon, c'était il y a presque 10 ans aussi, ouais. Enfin, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Franchement. C'était une super expérience. J'ai encore une fois appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur le web. J'ai appris beaucoup sur les médias en ligne. J'ai appris beaucoup sur le référencement.
Okay.
Et en fait, tout ça, ça m'a servi énormément
pour
Contournement.
Okay.
Mais en vrai, vraiment
tu t'es nourri
énormément,
un peu de
quoi.
Toutes tes expériences pour aujourd'hui Contournement.
Ouais.
Et pour
c'est pour ça que je te dis. Hein,
pour ça
c'est
êtes,
là on est.
Pour ça que vous êtes les meilleurs.
C'est un peu la synthèse. Ouais, je sais pas si on est les meilleurs, mais en tout cas, on tient quelque chose, je crois.
Je pense que vous pouvez dire techniquement que vous êtes la techniquement la plus ancienne et la première boîte no-code française, pas forcément en termes de CA, en
non,
termes
ça,
de
c'est,
clients,
ça, c'est pas
mais
vrai.
Si c'est vrai, enfin vous l'êtes techniquement en termes de formation, en
non,
termes de...
Sur la formation, mais après il y a des boîtes qui font du no-code depuis bien plus longtemps que
ouais,
nous.
Mais vous avez amené une évangélisation qui est quand même autre, tu vois.
Oui, c'est ce sujet de la démocratisation, etc.
Ouais,
tu
mais
vois,
c'est hyper important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, ce qui est drôle, il y a toujours des gens qui parlent du Slack de Contournement. Moi, ça me fait... Moi j'aime bien, je trouve ça cool, je trouve ça drôle, ils disent oui, le Slack de Contournement.
Moi, ça me gêne un peu, parce que du coup, ça fait une confusion.
Mais non, mais moi, je trouve ça cool. Et je trouve que, tu vois, c'est pareil, moi, je pense que à l'époque, on s'est rencontrés Du coup, j'avais fini mes études. On s'est parlé, je pense que c'était avec l'autre, j'étais à ma fenêtre, je faisais tour dans mon salon parce que j'aime bien marcher quand je suis au téléphone. Et je savais pas quoi faire de ma vie. J'avais postulé pour travailler chez Bouscapé, j'avais jamais eu de réponse. Je voulais travailler dans des médias, j'avais jamais eu de réponse. Je finissais chez.
Ça, c'est marrant, tout ça, tu m'as pas raconté tout ça la première fois quand je t'ai interviewé.
Non, parce
mais c'est drôle
Glide.
Parce que du coup, on a. La...
Parce qu'on parlait de Glide,
ouais, bien sûr. Ouais. Ça.
Mais ouais, moi j'étais un grand fan de rap et de vidéo. Et du coup, je voulais faire de la vidéo chez Bouscapé, mais jamais eu de réponse. Et j'ai découvert le no-code, du coup. Et je pense que sans vous, je serais pas là aujourd'hui, on ferait pas ça aujourd'hui, tu vois. Parce que tous les échanges qu'on a fait, tous les boosts, la communauté également, et le fait de pouvoir rentrer là-dedans, de ces décisions, de pouvoir prendre de la place là-dedans, ça a aussi amené, je pense, des parcours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est pas des messies ou quoi que ce soit, mais je pense que vous avez fédéré une communauté de base qui aujourd'hui apporte beaucoup. Et je sais qu'on a beaucoup de témoignages de personnes qui sont contents et qui disent merci à la communauté. On reçoit des messages Slack. Je pense que le premier qu'on a reçu était très touchant de quelqu'un qui nous avait dit, je l'avais lu Alexis, ça nous avait beaucoup touché. Quelqu'un qui dit oui, merci beaucoup la communauté, ça m'a apporté des clients, des contrats, c'est très cool. Qu'est-ce que je peux faire en retour? C'est vrai que vous êtes quand même là-dessus et sur le fait d'apporter. Vous avez fédéré quelque chose et vous avez créé quelque chose d'important et d'hyper intéressant et d'hyper cool.
Bah écoute, merci. J'en suis content. Tu vois, après, il faut voir aussi l'aspect entrepreneurial de tout ça, le business, etc.
Évidemment.
Mais c'est pour ça que nous, on fait de la formation. Il y avait des formations aussi avant nous. Je veux dire, tu vois, même ne serait-ce que Thibaut, hein, je veux dire, Otto, ils se sont lancés exactement. Franchement, on s'est lancés en même temps, tu vois.
Okay.
Vraiment, on était en parallèle et on s'en est pas rendu compte tout de suite l'un ou l'autre.
Mais je voulais en parler aussi.
Mais assez vite, tu vois, on s'est tenu au courant et on s'est parlé assez vite et tout, tu vois. Mais je veux dire, très franchement, tu vois, Otto et Thibaut, il faut leur...
Otto.fr.
Il faut bien quand même remettre ça dans l'histoire. C'est que c'est, à ma connaissance, eux, en fait, la vraie première communauté no-code et la plus grosse communauté francophone. C'est, sauf que eux, c'était une communauté qui était privée puisqu'il fallait être membre, etc. Mais en réalité, c'était eux les plus gros.
Mais c'était moins, ouais.
Et après, il y a eu...
moins démocratique. Enfin, pas moins démocratique, c'était moins accessible, en tout cas.
Bien sûr, mais c'est très bien. Et tu vois, même aujourd'hui, ils ont une très grosse communauté, mais il y a aussi une fusion qui s'est opérée. Et il y a un overlap, enfin, un regroupement entre... Enfin, de tout ça. Et puis, il y a des gens, et maintenant, ils ont ces spécialisations autour de Bubble, etc. Et
du coup, ils ont leur communauté de Bubbleurs.
Et c'est super, ouais. Et une communauté de Bubbleurs qui est pas fermée, d'ailleurs, enfin, dans le mauvais sens du terme, mais qui est... C'est normal, des gens qui sont passés par les formations, et ça, c'est génial, tu vois. Et d'ailleurs, ça, alors là, c'est pas un teasing, hein, parce que je sais pas, tu vois, mais on n'est pas à l'abri un jour de faire nous-mêmes aussi une communauté qui serait un peu plus fermée.
Okay. Les insiders, serait différente. Les contourneurs et les contourneuses.
Ouais, voilà.
Non, les bypasseurs et les bypasseuses.
Ouais.
Pour ceux qui n'ont pas la référence, et je voulais faire un petit retour aussi là-dessus. Si vous voulez, alors on ne parlera pas forcément au sein de ce podcast de qui fait quoi chez Contournement, parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Donc je vous invite à écouter le podcast avec Erwan. Kézar, on parle un peu de qui fait quoi. Donc j'essaie de ne pas répéter mes questions pour ne pas faire deux podcasts de suite avec les mêmes questions. Mais il y a un truc sur lequel je voulais revenir. On est un peu parti dans tous les sens, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est ça qui est bien. C'est pas du tout un reproche. Tu te lasses peut-être un peu moins du no-code parce que tu fais pas toujours les mêmes choses. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte. Moi, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses, et je sais que en deux ans, maintenant ça fait 2 ans que je fais du no-code, un peu plus, et j'ai appris tellement plus de connaissances et j'ai appris tellement de choses qui pour moi étaient inconnues et tellement de trucs tellement différents que tu vois, en fait, tu fais tout et rien, tu peux tout faire aujourd'hui et t'as tellement de multitudes de trucs. En plus, sur la formation, c'est encore mieux parce que du coup, tu fais plein de choses différentes, enfin vous faites plein de choses, et en fait t'as des, tu vois, tu peux te faire un an sur l'automatisation, un an sur les... Et je pense que, tu vois, moi personnellement en tout cas, je sais que j'ai exploré peut-être 20% ou peut-être 30% de ce qu'on peut faire avec du no-code, tu vois.
Non mais t'as tout à fait raison, parce que c'est vraiment... Enfin, j'y pense de temps en temps, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de continuer à faire Contournement, c'est que... Mais ça, c'est quelque chose dès le début, tu vois, c'est-à-dire que on savait que le business, on voulait que ça soit la formation, parce que pour moi, c'est un des meilleurs business models. Et moi, je veux plus faire de prestations et d'agences, etc. Et en même temps, tu vois, ça, je te dis ça, peut-être qu'un jour, je voudrais le refaire, tu vois.
Ouais.
Franchement, je suis pas sûr, parce que ça m'a vraiment un peu dégoûté, mais en tout cas, clairement, autour de ce business cœur, tout ce qu'on a fait autour, tu vois, que j'ai commencé très tôt, tu vois, déjà il y a 2 ans, faire des vidéos pour YouTube. Franchement, bon, ne regardez pas nos premières vidéos, elles sont affreuses.
Moi, je trouve ça intéressant et je voulais en reparler aussi parce que j'ai dit des conneries tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur YouTube, on voit beaucoup et tu fais beaucoup de vidéos et tu produis quand même pas mal de contenu sur YouTube.
Ouais, mais tu vois, ça, Après, tu vois, ça, c'est du contenu, c'est moins des trucs médiatiques, etc. Et j'avais pas forcément prévu de le faire.
Okay.
Au début, je le faisais vraiment pour tester. Mais aussi, et tu vois, c'est là où justement, tu vois, ces trucs-là que j'avais fait à l'époque autour du voyage me sont revenus. C'est ce côté multicanal, multimédia. Tu vois, et de faire des formats, d'imaginer des formats, la série vidéo premier pas, la série tuto,
qui est très bien,
le podcast,
les tu vois, je les envoie souvent des gens là-dessus parce que je la trouve vraiment bien. Ouais, bah c'est cool, non, parce que ça permet de découvrir un outil vraiment comme si tu découvres un outil, quoi. Donc c'est vraiment très cool,
tu vois. C'est j'ai très tôt, tu vois, et même quand on a eu nos premières discussions autour du média, cette idée de grille, etc., mais en fait j'ai eu tout de suite, et c'est vrai que ça fait que je me lasse pas, parce que j'ai juste à inventer une nouvelle série de vidéos, par exemple. J'ai juste à, bah tu vois, je vais faire cet été un nouveau podcast.
Ouais.
Un nouveau podcast en anglais, ça c'est un petit projet un peu plus perso que Contournement, mais là aussi je vais ouvrir une nouvelle porte, je pense, un peu dans l'histoire de Contournement et dans mon histoire dans le no-code.
Est-ce que vous l'appellerez Bypass, le programme anglais, ou pas? Est-ce que vous pouvez l'appeler Bypass?
Non, je vais vous dire le nom de code que j'ai. Okay. C'est, de toute façon, je travaille tout seul sur ce sujet. Je pense appeler ça, mais du coup je vais vous demander votre avis comme ça en même temps. Je pense appeler ça Radio No Code International.
Ok. C'est
et en fait j'ai envie de faire un...
C'est, pas un peu, c'est un truc, c'est pas un peu long pour les
ouais,
Spotify.
Parce que en fait le truc c'est que le nom du coup ça serait RNCI.
Ooh.
Tu vois, un truc un peu, et j'ai envie de faire un jingle, tu vois, j'ai envie de payer un mec sur Fiverr pour me faire un jingle, tu vois, vraiment en mode
Et question, si c'est en anglais, est-ce qu'on dit pas International No Code Radio?
Bon point.
Non, mais c'est une vraie question.
Mais du coup, ça serait plus difficile à prononcer. Tu vois, ça serait
International No Code Radio. C'est le radio.
International Radio. No Code Radio, c'est ouais. INCR. Ouais, c'est ce
problème. Parce que je sais pas si on met le Radio No Code World. Je sais pas ce qu'on met en No Code FM. Ça, c'est des bonnes suggestions. On peut avoir
écoute,
du côté
ouais,
mais ok.
On va voir. Non, mais après, le FM, c'est pas mal parce qu'il y a un top level domain fm.fm qu'on peut acheter.
Ah.
Donc, par exemple, le podcast américain là, de référence Visual Dev FM.
Achetez le nocode.fm, s'il vous plaît.
À mon avis, il est déjà pris, mais, mais je vais regarder. Non, je suis à la recherche
c'est
de
pays,
nom.
FM
en fait, maintenant, tous les TLD ne sont pas obligés d'être liés à des pays.
Ok.
Les
TLD, du coup, pour les personnes qui savent pas ce que c'est.
Top level domain.
Très bien.
Comment on dit en français, on
extension,
dit...
non?
Ouais, on peut dire extension, mais le vrai nom, c'est domaine de level, enfin domaine dernier niveau, je sais pas quoi. Il y a un nom.
C'est vrai qu'il y a No Code World aussi.
Ouais,
no code
je vais regarder après sur Twitch un petit peu
les messages.
On va...
Moi, il y a un truc dont je voulais parler parce que ça m'a toujours intrigué. Je pense que ces gens se posent ces questions. Alors, je sais pas trop de quoi, parce qu'en fait, j'ai pas eu de brief. Au début, j'aime bien de quoi on peut parler, pas. Donc, je vais poser des questions et peut-être que Alexis va
répondre. Je répondrai pas.
Ouais,
ça m'étonnerait. Tu sais que ça, c'est. Je vais partager un peu les coulisses du podcast. Mais donc, du coup, avant chaque enregistrement, je demande toujours aux gens, est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux pas parler, ou est-ce que... Et personne m'a jamais rien dit.
C'est vrai.
Et à chaque fois, je dis la même chose. C'est-à-dire, je dis, de toute façon, t'inquiète pas, si jamais tu regrettes une de tes réponses, on pourra la couper.
Moi,
après.
Je t'ai jamais coupé
quoi que ce soit.
Si, moi, je t'ai dit un truc.
Et c'est ce que je dis. Un truc sur Glide.
Non, c'est sur moi, mais c'est un truc que je dis à tout le monde.
Non.
Je le dirai pas en live, mais.
Non, je crois pas que tu m'as dit.
C'est vrai. Parce que pour moi, c'est un des seuls trucs dont je parle jamais, peu importe l'endroit.
Bah, je crois pas que tu me l'aies dit.
Tu n'as pas dit l'âge? Non.
Non.
Non, ok.
Je crois pas. Mais à l'époque, alors moi, il y a un truc qu'il faut savoir. J'allais dire une maladie, mais c'est pareil, c'est pas le bon. Il y a une expression en anglais qui s'appelle colorblind. C'est les gens qui voient pas les couleurs, tu vois. Il y a plusieurs expressions comme ça, et moi, je suis age blind.
Ok.
Tu vois, bon, faut pas que je fasse de trucs en anglais après, sinon je vais faire Jean-Claude Van Damme, mais c'est juste, je sais pas comment dire en français.
Oui, tu.
Mais en fait, j'arrive pas. Je pense parce que j'ai toujours eu l'air beaucoup plus jeune que mon âge.
C'est vrai. On en parle. Oui, c'est
d'ailleurs,
vrai.
La semaine dernière, tu pensais que... très surpris qu'Erwan soit plus jeune que moi.
Mais je suis désolé. Et là, on peut demander aux gens qui m'écoutent et peut-être aux gens qui sont présents sur Twitch aussi. On est d'accord que Alexis, techniquement, a l'air plus jeune qu'Erwan. Enfin, de mon point de vue,
j'ai l'air plus jeune, moi, ça me pose aucun problème, tu vois. Mais donc, du coup, c'est vrai que je regarde jamais l'âge des gens. J'essaie jamais même d'y penser.
Même sur Twitch, les gens sont d'accord avec nous, ils ne le savaient point.
Donc, non, mais bon, après, il y a une question de prestance, de médias, de je sais pas de quoi. Non, mais moi, honnêtement, quand j'étais jeune, ça m'a fait souffrir, tu vois. Je me suis fait recaler de toutes les boîtes de Paris, tu vois, de Paris et d'ailleurs, parce que j'avais l'air trop jeune. Et franchement, jusqu'à ce que j'ai 25 ans, ça me faisait un peu chier. Maintenant, ça me fait plus plaisir qu'autre chose, quoi. Mais donc, ça veut dire, mais du coup, tu vois, je regarde pas du tout l'âge des gens, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Et donc, je me comporte avec les gens pareil. Donc,
Moi,
je ne me suis même pas posé la question de quel âge tu avais, tu vois. Après,
moi,
en général, tu déduis un peu l'âge avec
le parcours
des gens, tu vois. Mais vraiment, j'essaye jamais, tu vois. Je m'en fous un peu, quoi.
Okay.
Et là, dans la communauté, tu vois, il y a plein de gens avec qui je suis en contact tous les jours. Aucune idée.
Et du coup, est-ce qu'il y a des sujets dont tu ne veux pas parler?
Franchement, je... Non, parce que, tu vois... Okay. En fait, c'est con, hein, tu vois, mais le premier truc auquel je pense forcément, ça c'est un truc très français, mais tu sais, c'est le business, les revenus. En fait, franchement, ça me fait ni chaud ni froid d'en parler. Okay. Moi, je serais en fait.
Vous allez tout savoir sur le business de comptement et combien il gagne.
Mais ça, franchement, non, mais je veux bien le partager parce que moi, en fait, j'ai pour objectif, et ça, Erwan était moins chaud, tu vois, pour l'instant, mais moi, j'aimerais bien participer à ce truc qui s'appelle Open Startup, où tu partages en fait tous tes chiffres, toutes tes métriques, pas que l'argent, tu vois, mais toutes tes métriques. Et j'aimerais bien le faire.
Ouais, moi je trouve ça hyper intéressant parce que comme les full disclosure et le fait de déclarer tes revenus et qui tu travailles, moi je trouve ça hyper intéressant. On parlera pas forcément parce que c'est pas, voilà, parce que évidemment vous êtes deux et voilà, c'est toujours important d'avoir ça. Et puis j'ai envie de dire, les questions d'argent c'est pas hyper intéressant, tu vois. C'est juste savoir si contournement aujourd'hui est en bonne santé, c'est mieux que savoir combien tu gagnes par mois. Et je pense que c'est pas forcément hyper intéressant de savoir précisément combien tu gagnes tous les mois. Mais c'est intéressant, tu vois, de savoir sur comment ça évolue. Mais avant ça, j'avais un petit truc qu'on fait que divaguer, toujours.
Non, mais c'est très agréable en tout cas. tu vois, c'est marrant parce que tu vois, la semaine dernière, la manière dont tu as interviewé Erwan, c'est plus la manière dont il a l'habitude. Par contre, tu as posé des questions qui étaient différentes, ouais, etc. Mais un peu plus journalistique. Et d'ailleurs, c'était très bien. D'ailleurs, il y a eu plein de retours là-dessus aussi, sur ce côté très, très journalistique. Et tu vois, moi, je suis plus à l'aise avec une discussion comme ça.
Que des questions.
Tu vois, là, en plus, c'est un podcast. C'est parce que j'ai une bière à la main, par exemple.
C'est parce que j'ai pas de questions, surtout. C'est ça. C'est que j'ai pas bien préparé en amont, parce qu'avant, je préparais bien. Et du coup, j'avais ces infos, etc. Alors, Lilian, pas du tout. Pardon, on fera une aparté dans le podcast. Non, moi, il y a un truc, et ça, je pense que c'est aussi une question que les gens se posent pas mal, c'est la relation entre vous et du coup Thibaut Marty de Auto.fr, Autotools, évidemment. La relation sur, voilà, est-ce que vous êtes dit au début, bah, on fait ça, on fait pas ça, est-ce que vous êtes vu comme concurrent, comment s'est passé un peu au début? Parce que c'est vrai que, de base, on va dire, en tout cas sur leur plateforme, sur leur business model de base qui est toujours le leur, mais aujourd'hui ils sont quand même un peu plus sur les bootcamps, ou en tout cas ils communiquent un peu plus sur les bootcamps que sur la plateforme. Vous faites un peu la même chose techniquement.
Ouais, mais on le fait pas pareil et on le fait pas sur les mêmes sujets.
Okay.
Mais tu vois, je veux dire, clairement, en fait le truc c'est qu'on s'est jamais croisé dans, justement, quand tu fais de la formation, déjà t'as différentes modalités de formation. Oui. Tu peux faire du présentiel, du téléprésentiel. Après, tu as la manière, tu as ta pédagogie. Tu vois, eux, c'est... En tout cas, au début... Pardon. Ça, c'est la bière. Au début, c'était beaucoup... tu sais, les clones, tu vois.
Oui.
Apprends à Dalo en faisant un clone de Vinted, tu vois, des trucs comme ça. C'est beaucoup ce qui publiait ça.
Le clone de la marque rouge dont on va te citer.
Voilà.
On n'a plus vraiment parlé. On a...
Donc, voilà. Bah, nous, on peut en parler.
Non, on n'a pas le droit, je crois. Je crois que la dernière fois sur Twitch, on a fait des blagues dessus, on n'avait pas le droit d'en parler.
Ah ouais, ouais. Bref. Mais c'est une marque une plateforme de petites annonces.
Une marque sympa, ouais.
Que vous connaissez tous.
Le bel angle.
Mais bon. Mais du coup, tout ça était déjà très différent. Et en fait, j'avais assez vite identifié. Forcément, quand je les ai vus dans mon radar, je me suis dit, ah ouais, bah, on a un concurrent, et en plus, je regardais, tu vois, évidemment. Ça, c'est la réaction.
T'as pris un abonnement à Auto au début?
Non.
Jamais?
Je crois que je me suis inscrit, mais j'ai pas payé. Ouais, je suis pas trop pour. J'aime pas trop le. Je trouve ça un peu moche, tu vois.
Okay.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit direct, tu vois. Okay, moi, je crois plus à ça, tu vois.
C'est toi qui as fait le premier pas vers lui.
Pas faire. Ouais, je pense. Non, il faut... très franchement, okay, parce que ça,
pas trop,
ouais. Vraiment, je pense que j'en suis à peu près sûr, parce que vraiment, j'ai contacté tout le monde. Tu vois, je pense que là-dessus, personne pourra.
T'as contacté qui à l'époque quand vous êtes lancé? Il y avait Thibaut. Du coup,
en fait, il y a deux contextes différents. Tu vois, en gros, il y a Thibaut. Je l'ai contacté parce que j'ai vu qu'il faisait un peu comme nous, et j'ai vu aussi qu'il travaillait à Simplon. En fait.
Ah, il travaillait à Simplon.
Ouais, il était formateur à Simplon, mais il n'était pas salarié. Il était juste en freelance à Marseille. Et donc, je me suis dit, bon, bah, en plus, ça nous fait un point commun. Donc, comme ça, on peut. J'étais déjà parti de Simplon, mais bon, je connaissais bien la maison. Donc, et en plus, c'était drôle parce que le référentiel de formation qu'il enseignait, c'est Erwan et moi qui l'avions créé, en fait, 3 ans avant.
Oui, c'est drôle.
Donc, et c'était quelque chose qui préfigurait un peu le no-code.
Et qui avançait avec des outils no-code.
Il y avait un peu de. Ouais, il y avait
des. Erwan la semaine dernière.
Exactement. Et donc. Donc je l'ai contacté, donc on s'est parlé, voilà, on s'est dit assez vite, tu vois, bon bah oui, on est un peu concurrent sur le papier, mais essayons de voir si on peut pas faire des trucs ensemble et faire un peu un espèce de gentleman's agreement, tu vois, que de voilà. Et depuis, on est toujours resté en contact, c'est-à-dire on se tient au courant quand on fait des trucs, on se tient au courant, et on s'est rencontrés. On a passé une bonne soirée, on a un peu picolé
pendant la première conférence no code organisée à The Family. Non, ou avant, vous êtes rencontré avant?
Non, c'était bien avant. Non, okay. On s'est rencontré qu'une seule fois, en fait, avec Thibaut.
Moi, je ne l'ai jamais rencontré, Thibaut.
Ouais, c'est très drôle d'ailleurs, c'est très, drôle, ouais. Très très bientôt. Ouais. Ouais. Moi j'ai hâte aussi de cette période après Covid où on va pouvoir tous voir les gens. Se rencontrer.
Peut-être ne plus s'aimer d'ailleurs malheureusement.
Il y aura,
peut-être
non,
s'adorer encore
non.
Plus.
Moi très franchement, je suis au contraire très optimiste sur ce qui va se passer justement après, parce que je pense que déjà d'avoir des relations comme on a eu tous là au sein de cette communauté à distance, quand ça, tu rencontres les gens, tu peux que t'entendre mieux, tu vois.
C'est vrai.
Tu sais, le mec, si c'est un connard, c'est un connard déjà à distance, tu vois. C'est pas... Non, mais
on va extraire cette phrase du podcast pour des subs sur Twitch.
Non, mais tu vois, c'est, tu peux pas en présentiel avec une bière ou enfin avec ou sans alcool.
Oui.
C'est une remarque d'alcoolo, mais tu vois, tu rencontres les gens, tu vois la personne, vraiment, c'est comme ça qu'on se... tu vois, c'est comme ça qu'on se rencontre, et donc on avait passé vraiment un très bon moment. Mais en plus, on s'était parlé très. C'est quelqu'un, Thibaut, je trouve, de très humain et très sensible.
Ouais.
Et on s'était parlé franchement même de sujets que moi j'aurais pas forcément abordé tout de suite.
Et, très direct, très franc et parfois.
Ouais, mais franc, mais pas grande gueule.
Oui. Ouais.
Franc, sensible, je sais pas. Enfin, peut-être.
Il a une bonne tête.
Et
on l'aime bien, Titi.
Ouais, mais en même temps, tu vois, un bras tout tatoué et tout, un peu badass, tu vois, le mec. Ouais, tu vois, ouais.
Une grande barbe,
ouais,
et
ouais.
Un petit bébé.
Voilà, c'est un vrai hipster de Marseille. non, mais...
Il va débarquer sur le chat.
Donc, non, mais... donc, ouais, ça, c'était plus la veille concurrentielle,
okay.
Entre guillemets. Mais voilà, pour moi, de toute façon, nous, je savais qu'on avait un combo avec Erwan qui disait que de toute façon, ce qu'on allait faire serait toujours différent. J'étais toujours été convaincu de ça. Donc j'ai très tôt contacté les mecs de Start the Fuck Up, j'ai tout le monde, moi j'ai écrit à tout le monde, tu vois.
Voilà. Ils ont répondu, les gens de Start the Fuck Up?
Ouais, j'ai même mangé avec eux, enfin voilà, après plus de nouvelles, par contre je les ai invités dans la communauté, ils sont jamais venus, bon ça, c'est la vie, ouais. Tu vois.
On en fera un épisode de No Code Game Live. D'ailleurs, sorti de la formation d'ailleurs, qu'il faudrait que je vais essayer et dont on parlera jeudi. Je vais demander à Jérémy Soupré
Germinal.
La formation Germinal.
Ouais, mais tu vois, j'aime bien parce que je suis dans une position où je peux parler des gens, sincèrement.
Ouais.
Parce que j'ai tendu la main à tout le monde, tu vois. Et donc après, c'est vrai que par contre, aujourd'hui, ça me fait bizarre de voir des gens qui font du no-code, qui parlent de no-code, qui font pas partie de la communauté no-code France, tu vois, qui jouent pas le jeu et tout ça.
Comprendre.
Voilà, je parle des gens de Start the Fuck Up. Hein,
moi, je tends le bras à personne, mais je les critique tous. C'est une
non, mais tu vois, après, moi, je dis les choses en face aussi quand j'en ai l'occasion. Et mais voilà, et par contre, après, surtout ce que j'ai fait, qui était bien plus intéressant, c'est que j'ai contacté tous les experts de tous les outils.
Okay.
Parce que notre formation à la base, enfin ça on a déjà parlé du coup dans l'épisode précédent, j'en ai parlé plusieurs fois déjà, mais on voulait faire un bootcamp multi-outils. C'est d'ailleurs pour ça que je connais très bien ce sujet, et donc que je me permets aussi de critiquer ce que peut faire Wellcode School et Allegria sur ces sujets-là par exemple. Mais c'est vrai qu'entre ce qu'on a fait à Simplon, ce qu'on avait imaginé pour contournement, etc., on a beaucoup réfléchi à tous ces sujets, quoi. Donc voilà, on a pas mal de matière.
En multi-outils, un bootcamp aujourd'hui, c'est une bonne idée? Ou c'est foireux?
Non, très franchement, aujourd'hui, je pense que c'était pas une bonne idée.
Okay.
Mais par contre, nous, la manière dont on voulait le faire,
ouais.
C'était que quand t'as une semaine sur Bubble, c'est un expert Bubble qui vient te la faire. C'est pas un mec
qui fait tout.
Voilà, tu vois, c'est pas un mec qui fait tout.
Ouais.
Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on a rencontré Lucien. C'est comme ça qu'on a rencontré Nicolas, que les gens connaissent pas trop dans la communauté, mais qui est vraiment le plus ancien bubbleur français.
Mais qu'on a vu d'ailleurs qui était là quand on s'est vu à la Félicitane, non?
Non, je crois pas. Il habite à Nantes. Il sera là au hackathon de Nantes. C'est un mec super, vraiment, que j'aime beaucoup.
Plus ancien bubbleur de France. Ouais.
Ouais. Et c'est vraiment un OG.
Un crack.
Vraiment
un OG.
Mais surtout, qui est vraiment hyper nice. Enfin, bref.
Okay.
Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'est remis un petit peu sur le Slack là récemment. D'ailleurs, c'est pour Lilian qui nous regarde là. C'est celui qui a envoyé un message tout à l'heure qui cherchait des gens sur Airtable. Bref, ça c'est une petite aparté, mais donc c'est comme ça qu'on a rencontré Théo.
Théo Roland.
Théo, j'ai tapé Webflow dans Malte. À l'époque, ils étaient 6, tu vois, je les ai tous appelés. Enfin non, je les ai pas tous appelés parce que Malte, tu peux pas prendre contact avec les gens directement. Donc j'ai cherché tous ceux que j'ai trouvés sur LinkedIn, ceux où il y avait le nom. Et après, j'ai genre envoyé un message. Il y en avait un, je sais pas d'ailleurs si ce gars-là, il est jamais arrivé... Faudrait pas que je parle comme ça se trouve il écoute le podcast. Un gars qui était professeur de danse la journée, qui faisait du Webflow le soir, un truc comme ça.
Je sais pas
si je
connais pas.
Mais on n'a pas eu de contact. Si jamais tu m'entends, reprends contact avec nous, qu'on se reparle.
C'est stylé en même temps, je trouve.
Ouais, enfin, franchement, le gars avait l'air génial, mais du coup pour le bootcamp c'était compliqué comme
ouais,
il avait, enfin,
ouais. C'est drôle.
Et il n'était pas à Paris aussi. Mais franchement, ouais, enfin vraiment, donc avec Théo, bah dès qu'on a eu l'occasion, on s'est rencontrés. Et puis, parce que, enfin voilà, bref, plein de gens comme ça. Et comme quand même assez vite après, on a lancé des petits événements, et ben on a fait venir Théo pour qu'il fasse une présentation de Webflow. On a fait quand même une petite formation qui n'était pas un bootcamp vraiment.
Side Project.
Mais voilà, qui était notre formation Side Project, soirée week-end. On a fait intervenir Lucien dedans, on a fait intervenir Nicolas. Théo était venu aussi faire une petite présentation.
Moi, j'étais là au jury. C'est sympa d'ailleurs.
T'étais là d'ailleurs au jury de la deuxième session, si j'ai pas de bêtises.
Ouais. Mais avec des projets sympas.
Donc ça, c'était des, c'est, voilà, après c'était des trucs qui n'étaient pas très rentables économiquement, mais en attendant
de trouver le bon.
L'explosion, on va dire, c'était super d'avoir fait ça. On a accumulé beaucoup de matière.
Est-ce que les premiers clients, tu te souviens du prof, est-ce que les premiers clients de contournement, c'était vos proches, etc. ou pas?
Sur nos formations en ligne.
Ouais, sur
nos formations
en ligne.
Non.
Okay.
Le premier client, c'est un gars, Jean. Si tu nous écoutes, si tu reconnais, qui est développeur.
Okay.
Et genre, il a acheté la formation initiation quand on l'a sortie, avant même qu'on l'ait annoncé publiquement. Je sais pas comment.
C'est drôle.
Je sais pas comment il est arrivé sur le site. Il l'a acheté alors qu'on l'avait pas encore annoncé.
Ah, c'est drôle.
Et donc, du coup, le problème, c'est qu'il a acheté plein pot.
Ouais.
Alors que nous, on fait toujours traditionnellement. D'ailleurs, on va arrêter, hein, je le dis comme ça au passage, mais on va arrêter les coupons promo. Mais plus de détails arrivent là. Je vais faire quelques teasings aussi parce que beaucoup de choses arrivent là avant la fin du mois de
juin.
Du mois de juin.
Des belles choses.
Et donc. Et du coup, je lui ai écrit et je lui ai dit, bah écoute, je suis désolé, fin, là, demain, on va envoyer une newsletter et on va annoncer qu'on fait une promo de 50%. Donc, si tu veux, je te donne notre prochaine formation, tu vois. Et donc, du coup, c'est aussi lui qui a eu en premier la deuxième.
Et il continue d'acheter les formations ou il a...
En fait, c'est lui qui était un des bêta-testeurs de la formation Glide. C'était Jean.
Ah, mais oui, d'accord,
voilà.
Ok.
Voilà, et donc, j'étais content quand il a postulé pour être bêta-testeur de la formation. J'étais très content de l'accepter aussi parce que... Voilà, et c'est un profil intéressant parce que c'est un ancien développeur qui s'intéresse au no-code.
Et donc, n'hésitez pas, vous avez compris, si vous voulez acheter les formations contournement, faites-le bientôt. Parce que...
Non, c'est pas... Enfin,
je sais.
De toute façon, bref, enfin, faites-le si vous voulez, mais je veux dire...
On pourra reparler de ça et il y aura les annonces qui vont suivre là-dessus.
Exactement. Voilà. Donc non, mes proches... tu vois, c'est vrai que c'est souvent c'est tes parents qui
se disent on va soutenir. Et vous...
Mais sauf que, tu sais, mes parents, ils comprennent rien à tout ça, tu vois, puis et on en a rien à foutre, tu vois.
Aujourd'hui, c'est combien de... C'est les chiffres... Combien de personnes qui ont acheté
on a, alors je peux te dire parce que tout à l'heure j'ai travaillé
formation ou...
on a fait 568 factures
okay.
Voilà ce que je peux te dire
okay.
Sur nos formations en ligne on en a fait donc ça veut dire ça fait un peu moins de clients parce qu'on a des gens qui ont acheté plusieurs formations mais ouais voilà 568
okay, bah c'est plutôt bien enfin c'est très cool
c'est plutôt ouais. C'est plutôt pas mal
vous êtes content aujourd'hui de ce que là où vous en êtes.
Non, mais je pense que aucun entrepreneur doit être content vraiment trop de là où il en est. Non, on s'est fixé un objectif l'année dernière qu'on a atteint en fin d'année, puis le début de l'année a été un peu plus compliqué. On s'est fixé un objectif de faire 10K de CA par mois sur les formations en ligne.
D'accord.
Sachant qu'on gagne un petit peu d'argent aussi avec d'autres choses. Et pour l'instant, depuis le début de l'année, on est entre 6 et 8.
D'accord.
Plutôt vers 8 à peu près, mais voilà. Donc on n'est pas à ces 10 qui pour moi sont importants parce qu'on les a atteints l'année dernière avec beaucoup d'efforts, là, un peu moins d'efforts en début d'année. Et c'est important parce que ça, c'est l'indépendance financière en fait.
Ouais. Et c'est le moment où vous pouvez être plus tranquille, entre guillemets, et t'as pas ce stress d'avoir de pas finir tes mois, etc.
Exactement, sachant qu'on a d'autres sources de revenus mais qui sont très irrégulières.
Je comprends, j'ai rempli mon URSSAF cet après-midi et j'ai regardé mon mois dernier et dans la case prestation de service, j'ai mis 200 euros. Et je faisais le pire mois depuis que j'ai lancé Comover l'année dernière. Ce mois-ci, là, début juin était bon, mais je t'avoue que j'ai rempli cette petite case dans mon truc, j'étais en mode genre, ah, bon.
Mais ça,
moi,
c'est...
j'ai pas payé beaucoup d'URSSAF, j'étais content, mais c'est vrai qu'ils m'ont fait un peu, je me suis dit genre, le mois était compliqué, je me suis demandé pourquoi j'avais un baisse de mood et j'ai compris.
Ouais, bah après, ouais, c'est difficile. Ouais. Tu vois, après, en plus, nous, on n'est pas très bons en termes de growth, de marketing, etc. Donc, on n'a pas de levier vraiment d'actionnable. Par contre, on a un truc organique que ça, tu vois, j'ai travaillé depuis le début et encore une fois, c'est là où... Alors, on n'a pas fait beaucoup de SEO vraiment, de Black Hat SEO, comme on dit, mais par contre, on a créé beaucoup de contenu. Donc, on a pas mal de ventes qui viennent un petit peu par le podcast, un petit peu par la chaîne YouTube, un petit
bouche
peu par
oreille,
bouche à oreille.
Alors
pas mal par le bouche à oreille.
Il y en a qui sont très bons en SEO, mais qui sont très mauvais en qualité de ce qu'ils vendent aussi. Ça, on pourrait en faire un...
Ouais, après, il faut un peu des deux, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai appris justement avec ce premier projet, ce projet autour du voyage, c'est que ça sert à rien. Si t'es le meilleur, tu fais le meilleur contenu, mais que personne le sait, peut-être tu vas mourir de faim comme les autres, tu vois. Et donc, maintenant, je veux toujours faire de la qualité, mais j'essaye aussi... C'est pour ça que j'ai pas honte de nos premières vidéos YouTube, parce qu'elles sont nazes. Mais elles ont fait avancer le schmilblick, tu vois, et petit à petit, on s'est amélioré.
Ça, c'est...
Mais par contre, cette fois-là, j'ai pas perdu de temps. Je dis, on fait, on balance, les gens vont venir. Et quand tu auras du monde, je serai au niveau, tu vois.
C'est comme tout, hein. Moi, j'ai regardé, mais quand j'aurai mes premiers reportages que j'ai fait vidéo et les montages, un jour, je te les enverrai, je les diffuserai.
C'est comme ça qu'on apprend.
On la gardera et je me dis, comment je peux faire ça, quoi. La typo, les cuts et tout, il y a les trucs Selenium, mais oui, c'est comme ça qu'on, au fur et à mesure.
Et de toute façon, au début, personne te regarde, donc c'est pas grave.
Ouais.
Mais voilà, petit à petit, tu te lances, tu passes, perds pas du temps. Et par contre, tu vois, mentalement, je me disais, bah, ces vidéos-là, même si elles sont moches, j'en parle comme si elles étaient bien. Et surtout, par contre, dans le fond, on n'a jamais transigé dans le fond.
Et le fond est bon.
La forme. En tout cas, on essaye de faire que le fond, il soit pédagogique, tu vois. Je ne sais pas s'il est bon, mais en tout cas, on ne fait aucun compromis sur la pédagogie. Ça, c'est vraiment le truc qui nous anime le plus.
Et justement, je pense qu'on va, on va aller plus doucement maintenant. On va prendre peut-être des questions du chat, parce que je ne sais pas combien de temps. Je pense que ça fait une heure.
On est à peu près à une heure.
Ouais, c'est ça. Et du coup, on pourrait parler plus longtemps, parce que j'ai encore plein de sujets.
Ouais, ouais, bah, non, mais vas-y, bon, de toute façon, on peut cet épisode.
Non, parce qu'il y a d'autres. Parce qu'il y avait des questions, du coup, dans le chat en même temps. Allez. Coup, là, on a les deux. Il y a des questions que j'ai notées qui sont intéressantes. Du coup, il y a Lilian, du coup, qui posait une question, mais qui était vraiment intéressante. C'est quoi une journée type chez Contournement? Alors déjà, il y a un truc intéressant à savoir, c'est que du coup, Erwan avant habitait à Paris, maintenant il est parti dans le sud. Et du coup, vous avez toujours, et ça m'a toujours intéressé, c'est que vous travaillez beaucoup en asynchrone. Ça, c'était un grand truc pour vous aussi.
Très, très asynchrone. Mais pour moi, l'asynchrone aujourd'hui, c'est un mode de vie.
Du coup, l'asynchrone, c'est le fait de très peu s'appeler, de travailler chacun de son côté, de faire des points, par contre récurrents, où vous discutez, mais c'est très peu d'appels, beaucoup de mails et messages.
Ouais, alors on a, en fait, dans notre fonctionnement ensemble, nous, c'est très inspiré des méthodes agiles. Okay. Donc nous, on est très, très porté là-dessus avec Erwan. On a formé beaucoup de gens à ça, ensemble, notamment à Simplon. Et on a des rituels.
D'accord.
Donc ça, ces rituels-là, ils sont synchrones. Donc en fait, je peux vous faire une journée, mais le problème, c'est que les journées, elles sont toutes un peu différentes.
C'est plutôt une semaine.
Mais je peux vous faire une semaine. Et donc en fait, les semaines... D'ailleurs, j'avais publié dans un post LinkedIn notre agenda.
Oui,
mais toutes les semaines, elles commencent de la même manière. À 9h30, on se retrouve le lundi avec Erwan pour se faire partager notre planning de la semaine, se dire quels sont les événements, quelles sont les choses sur quoi on a un peu travaillé, sur quoi on va travailler, qu'est-ce qui nous bloque, est-ce qu'on a besoin de quelque chose l'un l'autre. Enfin, voilà. Ça, normalement, moi, dans un idéal, c'est quelque chose que je ferais tous les matins.
Okay.
Mais on n'a pas forcément le temps. Puis on n'est que deux. Enfin... Mais
ouais, c'est
en équipe,
très intéressant.
Voilà, ça c'est vraiment c'est le rituel.
C'est un peu
une espèce
de sprint planning.
Bah c'est ça, en fait, donc notre lundi c'est le planning du sprint. En fait, chaque semaine est un sprint.
Okay.
Donc si on prend la méthode de Levi Scrum.
Pour le sprint, c'est-à-dire qu'on met des tâches qu'on doit réaliser au bout d'une semaine. Je peux expliquer, un petit peu.
Ouais. Bon après moi je peux faire une formation sur Scrum, hein, sur la méthode agile, mais ça c'est un sujet que je compte justement investiguer plus tard quand on aura un peu plus de temps, vraiment comment marier nos codes et agilité.
Okay.
Mais bon, ça c'est un peu plus tard. Mais donc ça c'est le lundi. Par contre, après on prend jamais de rendez-vous. On n'a aucun rendez-vous le reste du lundi est sacralisé, enfin sanctuarisé comme on dit, pardon. Et donc on travaille sur des tâches. Donc moi le lundi après-midi par exemple, je vais dépiler des tâches que j'ai dans mon Trello. On utilise Trello, on n'utilise pas Notion.
C'est vrai, vous utilisez Trello pour les tâches?
Ouais, okay. Ça c'est un héritage d'Erwan, mais en même temps, je trouve que ça me va aussi.
Okay.
L'appli mobile Trello, en fait, est vraiment très pratique.
Okay.
Elle fonctionne hors ligne, elle synchronise. Donc voilà, c'est Erwan qui a l'habitude d'utiliser ça.
Todoist, que j'aime bien.
C'est un truc un peu historique. Donc voilà, on utilise pas mal Trello. Okay. Tu n'es pas le seul à utiliser Todoist. Et donc, moi, je dépile des tâches. Et après, par contre, je fais plus de travail de fond le reste de la semaine.
D'accord.
Donc, le reste de la semaine, moi, je fais beaucoup de vidéos. Là, en ce moment, je passe mes journées à tourner des vidéos pour des choses qu'on va annoncer à la fin du mois. Mais voilà, donc moi, j'alterne entre ce que je fais pour la communauté. Donc, les gens qui écoutent voient bien que régulièrement, je réponds. J'ai beaucoup, beaucoup de messages. Je réponds.
Combien de messages par jour sur Slack?
Franchement, j'ai jamais compté parce que j'ai pas trop envie.
Une dizaine par jour? Plus.
Ouais, j'interagis avec une dizaine de personnes différentes chaque jour, au minimum. Ouais.
LinkedIn, beaucoup de messages ou pas?
Pas mal, un peu moins qu'Arwan, je pense, mais j'en ai aussi quand même pas mal. Moi, je les traite très, très, au fur et à mesure.
Tu réponds tout le monde sur LinkedIn?
Ouais. Okay. Et j'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde avec une automatisation, avec un Phantom Buster. Okay. Parce que je m'en fous, en fait. Et par contre, quelqu'un qui me saoule, je
beaucoup de messages automatisés sur LinkedIn?
Ouais, un peu, mais en fait, il y en a moins en ce moment, je trouve.
Ah, moi, j'en ai beaucoup en ce moment. Mais surtout, c'est des trucs très peu ciblés, vraiment. On propose des trucs pour du... Enfin, vraiment.
Ouais, je trouve qu'on les voit... En fait, tu vois, le truc, c'est que, tu sais, moi, je trouve que ça te fait du reach, tu vois, d'accepter les gens, tu vois.
Oui, non, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais.
C'est un peu con, mais des fois, il y a des gens intéressants aussi. Enfin, bref, j'en fous.
Et tout.
Donc, voilà, je sais pas. Enfin, ouais, j'ai pas mal de. Par contre, c'est vrai que je prends plus du tout depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, quasiment aucun rendez-vous synchrone.
Ok.
À part nos créneaux d'office hours, tous les lundis et mercredis. Ah oui, ça, j'ai oublié. Bon, bref, je vais pas faire le calendrier.
C'est mardi et vendredi, les office hours, non?
En fait, ça a changé maintenant.
Ah, ça a changé, ok.
En fait, maintenant,
je vais mettre à jour dans les slides, du coup, parce que moi, j'ai encore l'ancien.
Ah ouais, non, c'est le lundi. En fait, on a étalé, parce que moi, en fait, avant, je passais tous mes vendredis après-midi à faire ça, et maintenant, okay. J'ai étalé. Voilà. Donc, le lundi, deux créneaux.
Okay.
Erwan, il a deux créneaux le mardi. Moi, j'ai encore deux créneaux le mercredi.
Beaucoup de demandes pour les office hours?
Ah, c'est toujours plein trois semaines en avance. Ça, c'est un des trucs qui me surprend vraiment. Mais
bon créneau
c'est...
aussi, les office hours.
Donc,
Et j'ai jamais voulu les faire payantes, les office hours.
Alors, en fait, on a un créneau de 30 minutes.
Payant.
Ouais. Qui est payant. Au début, d'ailleurs, c'était. Je livrais un peu les. C'est pas... Enfin, c'est du business, hein, mais au début, c'était 40 minutes à 49 euros.
Ouais.
Après, c'est devenu 40 minutes à. Après, c'est devenu 30 minutes à 49 euros et maintenant, c'est 30 minutes à 79 euros.
Ok. Moi, je suis à 20 minutes à 30 euros.
Ouais. Bon, c'est bon.
Ouais. Mais non, mais je pourrais augmenter du coup.
C'est... Non, mais après, tu vois, le truc, c'est qu'en fait, nous, ça nous prend trop de temps. C'est un truc qui n'est pas du tout rentable.
Moi, ça, je le comprends totalement.
Et donc, on a laissé l'option quand même parce que de temps en temps, bah, y a des gens. En fait, en gros, ce que ça te permet, c'est d'avoir 30 minutes assurées quand tu veux, en dehors des créneaux.
Sur un, ouais.
Et voilà. Et nous, en fait, en général, on dépasse. Enfin, c'est moi surtout. C'est que moi qui fais ces créneaux-là. Je dépasse toujours un peu.
Tu peux pas dire. Enfin, c'est compliqué de dire à la personne. Ok, c'est bon, ça fait 30 minutes.
Ouais,
salut.
Voilà. Après, les gens jouent le jeu. Hein. Très franchement, les gens, ils abusent jamais. Mais moi, j'ai envie que les gens, ils en aient pour leur argent. Souvent, les projets, ils m'intéressent. Enfin, voilà.
Et du coup, c'est quoi vos office hours? C'est des conseils ou c'est de la prod?
C'est toujours pareil. C'est du conseil. Okay. Non, c'est. En fait, c'est 80%, c'est du conseil.
C'est mise en relation.
En fait, c'est du conseil, genre, quels outils pour faire mon projet. En gros, 80%, on répond à ça.
D'accord.
Bon, moi, j'aime bien, ça me challenge, même si...
c'est souvent
60-70%, c'est je réponds Bubble, faites le bootcamp de Thibaut. Mais parce que très franchement, c'est juste la meilleure solution, tu vois. Enfin, là, je le dis publiquement, hein, mais... Ça, honnêtement, enfin, la plupart des gens,
pour n'importe quel projet. Ouais.
Non, pas pour n'importe quel projet. Attention, bah non, oui, parce que là, sinon, mais... ça voudrait dire, tu vois, que je dis toujours le même conseil. Non, le problème, c'est que la plupart des gens veulent faire la même chose. C'est ça le truc. Okay. La plupart des gens veulent faire des plateformes d'intermédiation, faire des marketplaces, etc. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de faire un bootcamp de Bubble. C'est même pas tant la question de Bubble en réalité. C'est le format de 3 semaines qu'ils font chez Otto. En fait, il est parfait parce que une semaine, t'apprends à faire du Bubble. Enfin là, je vais répéter ce que je dis à chaque fois, mais c'est une semaine, t'apprends à faire du Bubble. La deuxième semaine, tu fais une marketplace. Dans 80% des cas,
tu dois faire une marketplace derrière.
C'est ce que les gens y font. Et en plus, les marketplaces, ce que les gens, je pense, ne comprennent pas forcément, c'est que pédagogiquement, ça te permet de voir tous les concepts fondamentaux de la programmation et du web.
Donc, et des possibilités de Bubble aussi.
Et absolument. Et après, la troisième semaine, tu fais ton projet.
Ouais, donc
tu vois, à la fin des 3 semaines, tu es sûr d'avoir ton MVP et en plus de pouvoir le faire évoluer et le maintenir.
Et franchement, je trouve que le tarif est quand même faible. Enfin, je trouve qu'ils sont quand même assez cool en termes de tarifs. Quand tu vois aujourd'hui des formations qui sont quand même chères, je trouve que c'est 900 euros, je crois.
Ouais, ça dépend si tu es en CPF ou pas. Mais
je trouve que c'est quand même assez accessible sur 3 semaines, surtout avec l'expérience qu'ils ont, la communauté et surtout leur réseau. En fait. Et je trouve que c'est
exactement,
ça aussi,
tu vois. Moi, c'est ça que je dis aux gens, c'est que vous allez être dans une cohorte et à la fin. En plus, vous ferez partie d'une communauté quand vous avez des questions sur Bubble. Il y a le Slack No Code France, mais sur le Discord c'est de Otto, c'est le meilleur endroit en France aujourd'hui pour poser une question sur Bubble. Donc,
est-ce que tu penses que parce que là, du coup, ils ont sorti Adalo. Aujourd'hui, Thibaut, ils ont un bootcamp sur Adalo. Tu penses qu'il y a d'autres outils où il y a des bootcamps intéressants? Est-ce que tu pourrais faire un bootcamp Webflow sur 3 semaines?
Ah bah oui, je pense que Théo devrait le faire un jour.
Je suis pas sûr
qu'il faudrait 3 semaines. Par contre, ce que je pense, c'est que dans ce bootcamp, il faudrait qu'il y ait du design et qu'il y ait du HTML et du CSS.
Okay.
Mais en gros, la formation init de Théo, il pourrait la faire sous la forme d'un bootcamp.
C'est vrai. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas une des seules, mais c'est la meilleure formation Webflow aujourd'hui qui existe. Il n'y en a pas beaucoup.
C'est pas la seule, mais je pense que c'est la meilleure aussi.
Il n'y en a pas beaucoup.
On est un peu partie prenante. Mais
non, mais pour le point, toi.
Mais oui, très franchement, je veux dire, c'est. Parce que, encore une fois. Ce que tu achètes, c'est pas que la formation.
C'est lui aussi.
C'est le Slack, c'est l'accès à Théo, c'est l'accès à des missions, c'est l'accès à une communauté. Enfin, c'est un truc hallucinant.
On pourrait faire un bootcamp Glide ou pas? Je suis pas très sûr. Aussi, quoi, on pourrait faire une semaine sur Glide, c'est vraiment. Mais
moi, je pense qu'on peut faire. En fait, le bootcamp c'est une modalité.
Ouais,
tu vois. La formation qu'on a fait sur Glide, Je pense sincèrement qu'elle est bonne. On a eu très bons retours. Et la faire sous la forme d'un bootcamp. Tu vois, nous, on a des gens qui nous contactent, notamment dans ces office hours, qui nous disent oui, mais et quand est-ce que la formation, on peut la faire en présentiel? Je dis, bah non, nous, désolé, on fait que de la synchrone, machin, j'explique les modalités. Et les gens, ils me disent, oui, mais moi, si je peux pas être dans une salle ou si j'ai pas une heure, j'y arrive pas tout seul et tout. Je dis, bah, je suis désolé, nous, c'est le truc qu'on a choisi, mais tu vois, il y a un marché pour tout, quoi. Ouais. Il faut juste trouver la bonne formule et il faut pas oublier qu'un bootcamp, c'est pas juste, tu vois, les cours, etc. C'est la cohorte, c'est ce que tu vas avoir en dehors, l'animation. Tu vois, enfin, donc,
mais...
ouais.
Il y a un truc cool en même temps, parce que ça m'a amené sur une autre question qu'elle a dedans, pardon.
Qui est dans le chat.
Qui est dans le chat, dans ce beau chat, qui est Lilian qui pose cette question. Comment vous choisissez vos formations? C'est vrai que c'est intéressant en fait. Nous, la formation Glide, on en avait discuté, voilà, et puis je me sentais bien de la faire avec vous, parce qu'on voilà, on avait créé une relation aussi par rapport à ça. Vous vous dites, c'est des demandes qui viennent? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, enfin, je sais pas, c'est des trucs, mais vous n'avez pas de formulaire où les gens peuvent dire, je veux tel outil. En même temps, vous couvrez quand même beaucoup d'outils, enfin, peut-être 80% des outils no-code aujourd'hui qui...
Bon, il y en a beaucoup des outils no-code.
Oui, mais des plus gros outils no-code. Aujourd'hui, vous avez, enfin, quand même, vous avez Airtable, Zapier, Doric, Adalo, Glide.
Notion, Typeform. En fait...
ça fait quand même Squarespace, il y a un petit truc sur Squarespace, sur l'e-commerce.
Ouais, qui est...
Mais il y a quand même, sur les, on va dire, sur les 5 plus gros outils, vous les avez tous, sauf Webflow, mais Webflow, vous l'avez en partenariat avec Théo, et vous n'avez pas Bubble, parce que ouais. Je pense que vous ne ferez jamais du Bubble. Enfin, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ce n'est pas votre créneau non plus.
Non, pas. Enfin, c'est pas l'idée, c'est ouais. Pas assez. Mais encore une fois, tu vois, c'est des discussions aussi qu'on a eues avec avec Thibaut. Enfin.
Du coup, on peut teaser un petit peu ce qui. j'ai pas rigolé, mais après, je vais me faire.
De teaser quoi?
Je sais pas le futur un peu de contournement.
Bah non, mais pour répondre à ta question et ça va teaser un peu le futur. Nous, en fait, c'est assez opportuniste. Okay. Tiens, moi, quand je rencontre quelqu'un d'intéressant qui est expert d'un outil. Je lui dis toujours, parce que tu vois, tu dis c'est toi qui nous a proposé, mais je pense que je t'avais proposé avant, tu vois, de faire la formation à Glide. Tu vois, au début, tu voulais pas.
Ouais.
Tu vois, mais parce que je dis tout, hein, moi je balance.
Non, mais c'est vrai. Je regrette pas, mais sachez que ça a été compliqué. Ça a été très compliqué cette
mais
formation.
Tu vois, je dis maintenant aux gens justement à qui je suis en contact, demander à Stan pour avoir une vraie vision de ce que ça implique de faire une formation. Demander à Stan témoignage.
Il faudrait que je retourne des vidéos en vrai parce que j'ai pas été. Enfin, j'ai souvent one shot les vidéos. Il y a plein, tu vois, il y a des trucs. Mais les premiers retours que j'ai eu. Je les ai pas mal pris, mais j'ai eu des retours qui étaient voilà, mais qui étaient bien, tu vois, qui étaient hyper justes, etc. C'est vrai que ça m'a fait un peu de mal quand même, parce qu'il y avait des retours.
Kevin, si tu te.
Ouais, Kevin, quand j'ai lu tes trucs, mais c'était bien, tu vois, je trouvais ça hyper cool et c'était génial les retours que t'as pu faire. Mais c'est vrai que quand je les ai lus au début sur le pied, j'étais en mode genre, ah oui, ok. Ah.
Non, mais c'est normal. Hein.
Mais
enfin,
ouais.
Je veux dire,
Et moi, je sais aujourd'hui, tu vois, que je le referai. Enfin, je le referai, ok, je pourrais le refaire, mais voilà, je
pensais pas que ça prendrait autant de temps et de.
Non, en fait, c'est, je sais pas comment dire. Moi, j'aime être là, quoi.
Ouais, mais c'est, mais tu vois,
mais c'est deux types différents.
Tu vois, c'est pour ça,
différentes.
Tu vois, il y a c'est pour ça que nous, il y a vraiment, c'est la formation, c'est une question de modalité.
Ouais.
Tu vois, j'ai envie
ouais,
de dire. Il y a des les formateurs, c'est pareil. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai plus envie d'être devant une classe. Franchement, ça me fait chier, quoi. Tu vois, enfin, on en a déjà parlé, hein, mais vraiment.
C'est pas ton truc.
Alors que enregistrer des, bon là, j'en enregistre un peu trop, mais. Mais sinon, vraiment, je trouve ça hyper efficace. En fait, ça me fait plaisir. Je suis tranquille. Je suis dans mon bureau avec mon fond vert, avec mon micro, tu vois. Et je, voilà, tu vois, je peux prendre le temps de bien expliquer le truc. Je peux refaire la prise, tu vois. Enfin,
oui,
maintenant, en plus, je fais un tout petit peu de montage, etc. Donc, c'est un peu plus quali. Mais donc c'est ça. C'est vraiment des partenariats. Mais tu vois, par exemple. Bah voilà, on espère faire une formation sur Integromat avec Louis, ça fait des mois qu'on en parle, et en fait, nous, ça nous paraît inconcevable de la faire sans lui.
Okay.
Tu vois, on n'a pas envie, on a envie que ça soit un partenariat, parce que déjà, on s'entend bien, parce qu'on connaît aussi, tu vois, ses compétences. Enfin, tu vois, après, il y a plein de choses, tu vois, quand on a fait du Notion, on s'est dit que c'était avec Jérém qu'on voulait le faire. Tu vois, on a des discussions comme ça avec plein d'experts et c'est vraiment comme ça qu'on voit le futur.
Okay.
C'est-à-dire que là, les prochains outils... Parce que de toute façon, on n'est pas expert de tout. Je veux dire, moi, à un moment, il faut être honnête, tu vois. Je
ouais,
me sens aujourd'hui vraiment expert de Zapier et Airtable.
Okay.
Notamment parce que je les utilise beaucoup dans le contexte de contournement.
Ouais.
Tu vois, ça, c'est dans la journée type. Il y a aussi une journée que je passe à organiser toutes les ops de contournement.
Okay.
Voilà, donc tout... Là, encore aujourd'hui, j'ai passé du temps sur nos... truc de génération de factures, etc.
Okay.
Donc, enfin, Ça, c'est un des trucs, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais on n'est pas expert de tout, tu vois. Enfin, même sur Airtable, il faut, pour être expert, c'est pas juste de maîtriser l'outil. Enfin, je radote vachement là-dessus, mais,
non, mais c'est
aussi l'expertise. Alors moi, j'ai une expertise autour de la base de données par mon passé de développeur, mais par contre, j'ai pas une expertise autour de la digitalisation, la numérisation de processus d'entreprise, etc. Tu vois.
Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça amène aussi la question et qui est toujours compliqué de dire à partir de quel moment est-ce que tu as une légitimité où tu peux être expert et formé sur des choses. Tu vois, je sais que il y a des outils. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, ça m'arrive de former sur Airtable et sur Zapier, mais je forme aux bases et je sais que jamais je pourrais former à plus qu'aux bases. Parce que tu vois, on me pose des questions après sur les trucs techniques. Moi aujourd'hui, l'expérience que j'ai à Airtable, c'est l'avoir implémenté chez 3 clients, mais j'ai pas de use case. Et tu vois, ce qui fait qu'on en parle beaucoup aussi, que personne comme Noam, il est expert de l'outil et surtout il a l'expertise en plus d'être expert. Bien en sûr. Fait, il a vraiment cette expertise de cas
concrets.
L'expérience surtout.
Que,
c'est ça.
Que l'expertise, ouais. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est formateur, c'est une position. Tu vois, moi ça, je l'ai bien vu à Simplon. Il y avait des très bons formateurs, c'était pas des très bons développeurs. Mais par contre, ils arrivaient bien à expliquer des trucs.
À transmettre.
Sauf que le problème, c'est que des fois, ils étaient plus à la page. Et là, avec le no-code, ça va très très vite. Et donc, il faut arriver à se tenir au courant. Et le truc, c'est que est-ce qu'il y a des experts sur Tally? Personne peut être expert sur Tally. L'outil, il est sorti il y a 3 mois, tu vois.
Moi, je vais être expert sur Doric.
Mais tu vois, expert sur Doric. Personne n'est expert sur Doric, tu vois.
Il m'a dit, Mizan, il m'a dit que j'aurais ma page. Je lui ai dit, je veux un programme expert. Il m'a dit, je te ferai une page.
Ouais. Tu vois, c'est important parce que justement, on est au bon endroit au bon moment. Par contre, on peut pas faire que de former. Il faut produire aussi, tu vois. Et ça, c'est très important. Il faut produire, faire des choses et comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Donc,
Moi, je vois que Glide, je fais beaucoup plus la joie de mes dernières créations. Je fais beaucoup plus d'applications pour des formations que d'applications pour des clients ou pour moi perso, tu vois. Je continue toujours pour essayer de me mettre à la page sur plein de trucs. Je sais qu'aujourd'hui, l'outil que j'utilise le plus, c'est Zapier et c'est Doric. Doric, j'utilise au moins une fois par jour.
Mais tu vois,
j'essaie de shipper plein de sites
sur Doric.
Tu peux
pas le faire sur beaucoup d'outils.
Non.
Tu vois. Et moi, c'est pour ça que moi, j'ai envie de bosser maintenant avec des gens qui sont experts d'un outil et qui font la veille sur cet outil aussi. C'est pas juste qu'ils sont un expert à instant T, c'est qu'ils vont suivre. On va pouvoir mettre à jour les formations. Tu vois, Glide, ça t'attend forcément tôt ou tard. Tu vois, s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes, qu'on veut mettre dedans.
Mais je ne les spot pas toutes. Hein. La communauté aide beaucoup aussi, parce que parfois je spot des communautés, parce qu'il y a le staging, etc. Donc je découvre souvent en live, je découvre des nouvelles fonctionnalités. Mais sinon, c'est vrai que la communauté en fait remonter beaucoup. Quoi. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'ils ont lancé un programme expert et du coup, alors je ne sais pas si tu dois en parler, on s'en fout.
On est entre nous.
Ils ont un problème d'expert. En fait, on a une application Glide perso où on peut faire remonter des features. Et en fait, il y a au moins chaque feature qu'on fait remonter pour lequel le cercle d'experts certifiés vote va être mis en production. Du coup, là bientôt, il y aura un système, un clic droit qui permettra de supprimer tous vos composants en un seul coup. Okay. Et en fait, une fois par semaine, on a le droit de donner une fonctionnalité. Non, une fois toutes les 2 semaines, on peut donner une fonctionnalité, on peut voter pour une fonctionnalité qui sera développée par Glide. Et ça, c'est vrai que c'est un beau process et je trouve ça hyper intéressant de rentrer ça et d'avoir ça, quoi. Mais parce qu'ils sont hyper à l'écoute aussi des experts et des expertes au sein de Glide, donc ça, c'est assez cool. Donc si vous avez des envies de features sur Glide, alors évidemment, si vous demandez les notifications push, ce sera impossible parce que c'est iOS qui veut pas, mais voilà, il y a des possibilités, il y a des features qui sortiront, et là, ils vont shipper quand même pas mal de trucs, enfin, ils vont sortir, pardon, pas mal de trucs, intéressants.
Cool. Ah bon. Et je vois qu'il y a c'est pas vraiment une question, mais une remarque de Xavier qui dit que ça serait marrant de voir nos formations sur Open Classroom. En fait, il faut savoir que Open Classroom, on les a contactés. En fait, Open Classroom, c'est un fonctionnement assez particulier.
Okay.
Et on les a contactés pour leur parler de nos codes il y a 2 ans, un peu moins, parce que Erwan connaît assez bien un des cofondateurs. Et ils nous ont dit texto que ça les intéressait pas. Okay. Donc je pense qu'un jour ils vont s'en mordre les doigts. Et moi pour vous dire très franchement, hein, c'est pour ça que je rebondis sur ce point, c'est que moi je suis en train de me demander si on devrait pas devenir l'open classroom du no-code, tout simplement, tu vois, en toute humilité, tu vois. Mais très franchement, déjà c'est aussi un petit peu par fierté. C'est vrai que moi ça m'énerve un peu, tu vois, quand tu vois le mec qui nous a dit vraiment littéralement j'ai pas le temps pour vous, tu vois, enfin
ouais, oui,
c'est un
pas
peu
hyper
convoqué, tu vois, on vient t'amener un truc sur un plateau, donc voilà. Et donc en fait c'est vrai que je me dis, tu vois, après Open Classroom du no-code ça veut un peu tout rien dire, mais dans une volonté, et on va un petit peu commencer à tester ça cet été je pense, voilà, ça c'est un petit peu des choses qu'on va un petit peu teaser, tu vois, qu'on va un peu tester en mode MVP, quoi.
Okay.
Mais un peu une plateforme où on va référencer les meilleures formations.
Okay.
et où nous, on sera impliqué d'une manière ou d'une autre.
Dans ces formations.
Ouais, dans ces formations, ou au moins qu'on les aura validées, ou je sais pas, et un petit peu amener ça. Voilà, parce que voilà, nous ce qu'on a envie, c'est vraiment d'être des experts sur la formation aux outils no-code. Je pense qu'on a maintenant gagné cette légitimité-là, et donc on ne veut pas se disperser. Par contre, on doit grandir et croître et trouver des nouvelles choses, et on ne peut pas vendre toute notre vie juste quelques formations. Quoi.
Est-ce qu'un rapprochement ou une coordination, même un engloutissement de auto.fr et de contournement est un jour envisageable sur les questions que j'ai déjà posées, mais...
Non, mais franchement, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais je pense qu'on a des manières de fonctionner très différentes quand même.
Et une formation commune ?
Bah, une formation commune, très franchement, c'est un secret de Polichinelle, mais on a déjà imaginé une. Quoi.
Okay.
On en avait imaginé une,
okay.
Sur Bubble, évidemment, qui n'a pas abouti. C'était pas, voilà, après, c'est nous, surtout, qui avons un peu changé de focus, etc.
Okay.
Mais il n'est pas dit que...
Que le futur...
Enfin, moi, en tout cas, là, je vais laisser la porte ouverte à Thibaut. Mais non, on fera des choses ensemble. Mais en fait, on fait déjà des choses ensemble, hein, comme je disais tout à l'heure. De toute façon, nous, on a des relations qui se matérialisent aussi par de l'affiliation. Hein, je le dis, je veux dire, c'est pas transparent là-dessus.
Je l'ai jamais utilisé chez vous. D'ailleurs, j'ai un lien, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Mais il ne faut pas hésiter. Hein. Nous, on est très contents de rétribuer les gens qui ont envoyé des gens chez nous. Et de la même manière, on est très contents de aussi recevoir quelque chose quand on envoie des gens. Je l'ai déjà dit, hein, moi, j'envoie vraiment les gens quand ça correspond bien au bootcamp de Thibaut. Voilà, on le fait avec plaisir, quoi.
Et il y a une autre question dans le chat qui est intéressante, et c'est vrai qu'il rebondit, la différence entre les formations et les vidéos des éditeurs de solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des questionnements, et les personnes viennent voir en disant « Ok, j'aimerais me former en no-code, mais par où je commence ?» Moi, c'est vrai que j'ai deux réponses à ça. La première, c'est c'est quoi ton temps, c'est quoi ton budget, et c'est quoi ton envie. Soit tu es autodidacte, et tu peux te former avec plein de vidéos un peu disparates, et tu fonces sur YouTube, et puis tu n'auras pas un truc de A à Z, mais tu vas aller choper les choses à droite à gauche comme ce que j'ai pu faire. Ou alors, tu as besoin d'être cadré, à ce moment-là, tu prends une formation et tu mets un petit peu l'argent. Quoi. Mmh. Tout qu'aujourd'hui, tu vois, j'en discutais, vos formations, ça présente une somme d'argent. Mais je veux dire, comparé à ce que la puissance, que ce que tu peux faire derrière, toi, c'est un investissement qui est intéressant quand même. Tu vois. Si aujourd'hui, tu peux te dire que pour 200 euros, tu peux faire un MVP, c'est quand même intéressant. Et du temps, évidemment.
Bah, je pense que, ce que tu dis, après, je vais répondre à la question, c'est vrai que c'est une question très intéressante, mais... Nous, je pense que nos formations, elles sont d'autant plus rentables que, surtout maintenant, et ça, c'est vraiment un des trucs majeurs de cette fin de mois, c'est que vraiment, on s'axe sur les opérations, sur les ops.
Okay.
Et que, franchement, maîtriser Zapier, Airtable...
Toujours du teasing.
Ouais, non, mais bon, tout ça va devenir plus clair, mais on n'a pas envie de trop en dire parce qu'on est encore en train de raffiner certaines choses. Mais l'automatisation, je veux dire, littéralement, ça te fait gagner de l'argent, tu vois. Ça te fait gagner du temps, donc de l'argent. Et voilà. Faire des MVP, faire des produits... C'est pas vrai, on va se faire embarquer. Non, mais c'est quand même, t'entends bien le...
Ouais, toujours. Peu importe où je vais, les sirènes des pompiers et de police, monsieur.
Ouais, parce qu'en fait, t'as une caserne et un hôpital pas loin.
Ouais, c'est un peu le. Mais c'est souvent les ambulances. La nuit, c'est beau parce que quand il y a pas de lumière, on voit les néons bleus à travers les vitres et c'est vachement beau. Ça fait des petits effets d'éclairage très cool.
Bon, je vais quand même répondre à la question parce que du coup, entre la différence entre les formations et les vidéos des éditeurs. En fait, c'est que les vidéos des éditeurs, elles sont de qualité très variable. Et ça, je dis pas ça parce que nous, on fait des formations, parce qu'après, j'ai un deuxième point là-dessus.
Les meilleurs étant notamment Webflow et Glide.
La Webflow University.
Ah, incroyable.
C'est incroyable.
Mais ils sont 10. Ou ils sont 5, je crois, ou 5 ou 6.
Mais c'est une équipe, effectivement, à part entière. C'est un budget, etc. Donc, si tous les éditeurs no-code avaient les moyens de faire ça...
Ce serait incroyable.
Nous, on n'aurait pas de travail. Sauf que, un, c'est qu'en anglais. Donc, nous, déjà, on a une existence juste par la langue française. on sourit parce qu'on regarde le chat en même temps, ça va pas donner très bien en podcast, mais
pardon, désolé.
Mais c'est vraiment très variable. Glide aussi, c'est remarquable, mais Glide par exemple, ça va pas très loin.
C'est plus à jour surtout.
Et c'est plus à jour.
Quelqu'un qui m'a demandé, il me dit je comprends pas, je regarde les vidéos, mais je comprends pas trop l'interface.
Ça c'est un autre problème, mais à la limite, les éditeurs, ça c'est ceux qui sont le plus à même de tenir à jour, donc ça il y a pas de différence.
Sur Glide, ils ont toujours pas fait leur mise à jour. Toutes leurs vidéos,
c'est un travail
colossal.
De toute façon, ça c'est un détail de forme, tu vois, parce que. Mais je veux dire, Jack, il explique très bien. En plus, ils font du motion design, etc. Donc leurs trucs sont très quali. Par contre, ça va pas très loin. Ils expliquent que les fondamentaux. Nous, dans notre formation à Glide, on va énormément, on va plus loin. Enfin, Jack, il nous l'a dit. littéralement, c'est la formation que j'aimerais faire, une formation complète.
Mais surtout, les éditeurs vont souvent, alors ça dépend peut-être pas Webflow, mais sur les éditeurs, ils vont souvent sur les fonctionnalités. Par exemple, tu prends Glide, ils t'expliquent la fonctionnalité ou à quoi sert tel type de colonne, mais t'as pas forcément de mise en pratique en fait. Et tu vois, t'as vraiment, genre, ils t'expliquent juste comment ça fonctionne, et après, c'est à toi derrière d'aller imaginer ça. Donc c'est vrai qu'en fait, sur la question des formations, je pense que t'as aussi le fait d'avoir, et notamment sur les formations Glide et même contrairement, d'avoir des exercices et d'avoir un but en fait.
Et ça, justement, attention, parce que tu vois, justement, c'est là où toutes les formations ne se valent pas.
Oui,
tu vois,
bien sûr.
Et nous, la manière dont on fait les formations, moi, j'estime que sur certains, ben, c'est nous qui les faisons le mieux. Hein. Mais encore une fois, ça c'est mon jugement, en plus, c'est biaisé, mais c'est. Il y a des gens pour qui. Il y a différents types de pédagogie, en fait. Ouais, nous, on a notre pédagogie. Et donc, elle est différente de celle des éditeurs. Parce que nous aussi, on fonctionne pas mal par les fonctionnalités. Mais les fonctionnalités, on les met toujours en contexte. Et en plus, on les met en pratique. Donc, c'est cette dualité qui fait qu'à la fin, non seulement tu as compris comment le truc marche d'un point de vue fonctionnel dans l'outil, mais en plus, bah, vraiment, tu sais l'utiliser. Et en plus, tu sais ce que tu vas pouvoir faire avec. Quoi. Ça t'inspire. Donc, c'est ça vraiment la différence. C'est essayer vraiment de trouver. Donc, c'est pour ça qu'on a des projets fil rouge, qu'on a plein d'exercices. Mais il y a des formations qui sont que ce qu'ils font, où il n'y a pas de mise en pratique. Hein.
Ouais. Oui,
et il y a des formations où c'est que de la mise en pratique avec des clones. Ouais. Tu vois, nous, notre pédagogie, franchement, elle n'est pas innovante, elle n'est pas révolutionnaire. Par contre, elle est propre à notre manière de faire. Elle est unique, en tout cas dans l'écosystème. Et voilà, elle nous ressemble. Et il y a plein de gens qui aiment bien. S'il y en a qui n'aiment pas, c'est pas grave.
Il y a plus de gens, il y a de plus en plus de monde qui arrive sur la live. Et je pense que c'est dû notamment au fait que les bars doivent fermer, donc tout le monde a dû rentrer chez soi.
Ah oui, c'est vrai qu'on va arriver.
On va arriver au couvre-feu 22h42.
Oui, c'est vrai. Bon, on continue un petit peu alors.
On avait une petite question que je trouvais intéressante, c'est qu'il existe une formation de no-codeur full stack, genre BDD, outil no-code d'automatisation. Oui, chez vous, d'ailleurs. On peut couper le podcast, on peut conclure le podcast si tu veux d'ailleurs. Et on peut
non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas.
C'est vrai, ok.
Mais j'ai fait un épisode qui dure 2h45, ouais. Donc je pense que.
Il y a une formation, vous avez une formation développeur sous full stack, enfin no-codeur full stack.
Ouais, mais c'est pas une vraie formation okay. En réalité. C'est un pack de formation ouais. Qu'on va d'ailleurs arrêter.
Okay.
Ça, je le dis pour les gens qui écoutent, c'est le moment de l'acheter parce qu'on va l'arrêter d'ici 2 semaines. Voilà, on va l'arrêter à la fin du mois de juin. Parce que justement, c'est qu'un assemblage de formations.
Ok, oui, donc c'est
pas. Et il n'y a pas de fil rouge entre les formations et ça me dérange un peu. Peut-être qu'un jour, on fera un bootcamp full stack.
Ok.
Voilà, ça c'est pas, c'était le bootcamp qu'on voulait faire à la base. Maintenant, je pense qu'on le ferait vraiment bien. Voilà, ça c'est, je sais pas, dans un an, dans 2 ans, peut-être jamais, peut-être.
Écoute, non, je pense qu'on a quand même, on pourra continuer, on pourra rester un petit peu sur le live, mais je pense qu'on a quand même abordé pas mal de sujets, pas mal de thématiques quand même, autour de, voilà, autant toi perso que toi dans la vie, toutes tes expériences, etc. On a déjà fini par, j'allais dire, on fait un petit portrait chinois. On a déjà fini par un portrait chinois.
Dans l'épisode précédent
avec Erwan. Je sais pas s'il y avait un, je dirais pas un mot de la fin. L'outil qui t'a le plus déçu cette année.
Non, mais en plus je souris, enfin je rigole comme si j'avais un truc en tête qui me venait immédiatement, mais en fait pas du
non.
tout.
Ok. Et l'outil que tu as, un outil qui n'existe pas que t'aimerais qu'il soit là. L'outil dont tu rêves plutôt.
L'outil on finit très dont philo, je rêve. Épisode. Un outil moi je rêve de mais ça va arriver bientôt donc c'est un rêve pas très du truc qui sera parfaitement entre Doric et Bubble quoi.
Okay.
Donc est-ce que ça sera WeWeb, est-ce que ça sera Softr, est-ce que ça sera Y-Code, est-ce que ça sera Builder, je sais pas, mais je crois dans cette catégorie d'outils ouais. Mais okay. Sinon après ouais, non, franchement, je suis pas très inspiré. Enfin, moi, après, non, si. Alors, je vais dire un truc quand même, parce que, pour quand même que ce soit à peu près intelligent pour terminer. En fait, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le web décentralisé, le web 3.
Okay.
Tout le monde parle beaucoup des crypto-monnaies en ce moment, etc. Mais en fait, il y a un truc qui est sous-jacent, qui est l'utilisation de ces technos pour du vrai web décentralisé.
Ok, tu peux préciser peut-être pour ceux qui...
En fait, on a une problématique aujourd'hui, c'est que le web est extrêmement centralisé. C'est-à-dire que toutes les identités sont stockées chez Google, chez Facebook. Tout le commerce est stocké chez Amazon. Tous les services sont chez AWS. Enfin, tout est très centralisé. Tous les transports sont... Et donc, il y a effectivement la blockchain. Mais il y a en fait différentes choses, parce que la blockchain, c'est un moyen de stocker de la donnée. Mais il y a différentes manières de faire, mais en gros, de décentraliser.
Ok.
La blockchain, ça permet de stocker des informations de manière vérifiée, mais ce n'est pas forcément un truc qui est scalable. Mais il y a des choses qui existent. Par exemple, il y a un token qui s'appelle Filecoin, qui est intéressant, qui a beaucoup pris récemment en valeur. Mais en fait, ce qui est important, ça c'est le dilemme dans la crypto, il y a les gens qui sont là pour la spéculation et puis qui sont là pour la tech. la tech de Filecoin est hyper intéressante. C'est un protocole en dessous qui s'appelle IPFS. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un truc trop technique, mais moi, je trouve ça incroyable parce que c'est un système de stockage de fichiers interplanétaire. Tu vois, dans le nom, tu vois, c'est le délire des mecs, c'est ça. Okay. Tu vois. Et le token est là pour rétribuer le stockage, etc. Mais voilà, c'est pas normal qu'en fait toutes nos données elles soient dans Drive ou dans Dropbox, tu vois. Il faut que tout ça soit décentralisé, sécurisé.
D'ailleurs, vous utilisez Dropbox, contrairement.
Non.
Ah non, je pensais que vous l'utilisiez.
Quasiment pas.
Ah, je pensais que vous l'utilisiez à un moment.
Non, on l'utilise dans nos formations, en fait, comme un exemple. Mais,
ok. Ah, je pensais
on l'utilise pas. Non.
Okay.
Peut-être Erwan l'utilise de son côté. Non, je crois pas. Nous, on utilise Drive.
Qui utilise Dropbox encore aujourd'hui?
Bah, énormément de gens.
Ouais,
hein.
Je sais, mais c'est marrant. Ouais, je sais, mais plus.
C'est très, très grand public, quoi.
Mais ok. Donc,
oui, voilà. Donc, moi, je crois beaucoup à la blockchain, au smart contract, à tous ces trucs-là, au Web 3, en fait, vraiment. Et donc, voilà, j'attends de... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'outils no-code qui permettent de travailler sur ces choses-là. Mm. Enfin, il y a même des choses que j'aimerais faire, mais je pense que c'est trop tôt pour no-code France sur ces sujets-là.
Ok.
Moi, enfin, voilà, j'ai un rêve un peu, je vais le dire comme ça, et puis après, on passera à autre chose.
Petite crypto,
no-code France. Mais non, pas... Moi, franchement, la crypto, je m'en fous, tu vois. Enfin, après... Mais j'ai investi dans des projets, mais vraiment, je ne pense pas spéculer. Par contre, il y a un truc qui s'appelle les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup des clubs d'investissement, mais en fait, c'est une manière de fonctionner qui est totalement décentralisée, qui utilise la blockchain pour faire des votes par consensus, etc. Et en fait, moi, je rêve d'un... Au lieu de faire une asso juste No Code France, l'asso, c'est le truc français, enfin voilà, avec un président et tout, franchement, c'est un peu chiant. Un truc vraiment décentralisé,
okay.
Où en fait chacun a un droit de vote. Dans les DAO, c'est souvent par rapport au nombre de tokens que tu possèdes, mais bon, ça, et où voilà, où juste tout le monde peut faire des propositions et ensuite elles sont soumises au vote de l'organisation et les gens votent, et etc.
C'est un peu le Chiapas nocodien.
Ouais, mais
c'est cool.
Et tout ça est inscrit dans une blockchain et donc est vérifiable et figé et infalsifiable.
Non, c'est bien.
Donc voilà, mais je pense que malheureusement c'est trop tôt à mettre en œuvre. Mais voilà, je sais pas s'il y a des gens qui regardent, qui écoutent, vous avez des informations sur ce sujet, pourquoi pas réfléchissons-en. Moi, je pense qu'on peut le faire déjà dans un premier temps, même sans blockchain, etc. Mais
ça peut être des projets intéressants.
Le côté vraiment très décentralisé, la décentralisation, je pense que c'est
en 3.0.
C'est très important dans notre futur. Et pour l'instant, les outils no-code ne s'attaquent pas vraiment à ce sujet-là.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça viendra. Mais bon.
Et on a une dernière question, et je pense qu'on pourra conclure cet épisode de podcast avec. C'est une date à retenir au mois de juin.
Franchement, normalement, je devrais dire le 30 juin.
Ok.
Mais le problème, c'est que j'ai un peu peur qu'on soit un peu en retard.
Ok.
J'attends des nouvelles de certaines parties prenantes.
C'est vrai, du projet.
Voilà, okay. de tout ça, de tout ce.
14, bon, on va dire soit le 30 juin, soit début février. Enfin, début juillet.
Début juillet, oui, j'espère que ça ne sera pas plus tard que ça. Mais ouais, enfin, de toute façon, on va distiller des choses au fur et à mesure. Okay.
Bah, tu me diras, si vous ne faites pas le 30 juin, je sors mon livre blanc le 30 juin. Tu me prétiens
beaucoup. Ok, ouais, ça marche.
Sans...
pas de souci.
Merci beaucoup, Alexis Kouanenko, d'avoir
répondu. Merci à toi. C'était intéressant.
À nos questions.
C'est marrant parce que je pense que je suis curieux de réécouter cet épisode. Enfin, je ne sais pas si je le ferai parce que je ne réécoute jamais les épisodes. Mais je pense que le fait d'avoir le live, ça nous a donné une énergie très différente.
Oui, c'est vrai, je pense.
En tout cas, j'ai pas l'impression, peut-être parce qu'il fait hyper chaud aussi et je transpire, mais j'ai pas l'impression d'avoir parlé comme je parle d'habitude dans le podcast.
Je sais pas, et le fait aussi de ne pas avoir préparé de questions, je pense que ça joue aussi.
Mais ouais, non, bah ça après, va, on a eu, tu vois, des...
On est beaucoup à droite à gauche, mais c'était bien en même temps.
Bah ça, c'est après, on laissera les gens dire...
C'était intriguant, le podcast live. Ah, vous pouvez rester, on va couper le podcast, mais on peut continuer à discuter. Hein. Moi, je vais recommencer la cigarette. Je crois qu'on a le droit sur Twitch.
Voilà, comme ça, moi, je vais ouvrir une deuxième bière. Non, merde, ça, j'ai dit trop tôt. C'est l'heure de conclure.
Merci beaucoup. Bah, te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter.
Les gens, a priori, arrivent à me retrouver. Mais moi, je suis normal. Twitter en perso, pas trop.
Ouais.
Mais moi, non, mais là où je dis toujours aux gens de me contacter, c'est vraiment sur le Slack de NoCode France.
Okay. Évidemment.
Même les gens qui me contactent par ailleurs, je leur dis inscrivez-vous si vous êtes intéressé par le NoCode. Si vous voulez me parler, c'est que vous êtes intéressé par le no-code. Si vous êtes intéressé par le no-code, venez sur le Slack de no-code France. Et là, vous m'en trouverez en DM.
Est-ce que les personnes qui ont écouté ce podcast et qui ont une question à te poser, est-ce qu'ils peuvent commencer leur message par un mot et tu lui répondras dès que tu le reçois?
Bah de toute façon, je répondrai quoi qu'il arrive.
Non, c'est mais... vrai, mais tu sais, ils ont côté un peu priorité, se dire, j'ai écouté jusqu'au bout, j'ai une petite priorité. S'ils envoient le mot sushi au début du message, comme ça, ça sera intéressant de savoir combien de personnes vont te poser une question ou vous découvrir ça, ils vont arriver jusqu'au bout de ce podcast et qu'on va envoyer le mot sushi. Si vous arrivez à glisser, alors évidemment, il y a les gens sur Twitch, donc évidemment, on triche un petit peu. Mais envoyez, si un jour vous avez une question, mettez le mot sushi dedans et on fera un décompte.
Bah, avec plaisir.
Il y a peu de personnes qui
en... N'hésitez pas. Non, mais tu sais que je fais toujours maintenant un outro personnalisé dans les épisodes.
C'est vrai. Ok.
Et donc, des fois, je mets des petits messages dedans, genre contactez-moi pour me dire. Enfin, et j'ai été très surpris de voir que du coup, c'est arrivé quelques fois.
Si vous avez un porte-jambon, contactez-moi.
Et donc, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que moi, même moi, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts. La fin, je l'écoute rarement, tu vois. Enfin,
donc. Il y a des aficionados du podcast qui l'écoutent jusqu'au bout. Je pense que Xavier, qui est là d'ailleurs, qui était là aussi, et peut-être Léon, doivent les écouter jusqu'au bout.
Ouais.
Bon, voilà. Bravo à vous. C'est comme, voilà. Vous êtes, faites partie de ceux qui donnent leur petit bout en chocolat du Cornetto. Vous êtes des gens incroyables. Voilà, et on fait des bisous.
Et à très bientôt.
Bientôt tout le monde.
Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir, d'autant que là, c'est moi surtout qui ai parlé. Donc voilà, ça me fait d'autant plus plaisir. Si ça vous a intéressé, surtout si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que ça devait pas être trop chiant. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Je remercie Stan encore une fois de s'être prêté au jeu. Et puis maintenant, je vais le laisser un petit peu tranquille et reprendre les contrôles de ce podcast. Plein de nouvelles choses. On va finir la saison 5 avec un dernier épisode où on parlera encore un peu de contournement, mais on parlera évidemment de no-code, on parlera de Webflow. Je ne vous en dis pas plus parce que vous allez voir que ça va être très intéressant et ça va coïncider avec certaines choses que j'ai teasées un petit peu dans cet épisode. Voilà, cette fin du mois de juin est un petit peu particulière dans l'histoire de contournement. En tout cas, on l'espère, on verra bien a posteriori. Peut-être que vous écoutez cet épisode longtemps après et du coup que tout ça n'a plus vraiment de sens. Et puis dans 2 semaines, on reviendra avec un épisode passionnant que j'ai déjà enregistré avec du no-code dans une très belle startup française. Et cet été, il n'y aura pas de pause, on va continuer, on va faire plein d'épisodes. Il y aura même un podcast en anglais que je vais faire aussi bientôt, que je vais commencer pendant un voyage que je vais faire cet été. Voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'épisode. Donc plein de choses à venir, plein d'épisodes, beaucoup de no-code, des voyages, des projets intéressants. Donc voilà, c'est encore plein de choses à découvrir, ne vous inquiétez pas. La saison 6 s'annonce tout à fait passionnante, je le pense, je l'espère très sincèrement. À vous de nous dire en tout cas. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur le Slack de NoCode France, channel podcast contournement pour continuer la discussion, ou en privé si vous le voulez. Voilà, comme l'invité à faire Stan avec le petit mot-clé. Et puis je serai très content d'échanger avec vous et d'avoir vos retours et de m'aider à continuer à faire ce podcast en me donnant des idées, des inputs pour qu'il soit toujours mieux, toujours plus intéressant. Allez, à très bientôt.